à tous, bienvenue sur le mug Nowtech. J'ai oublié de mettre mon casque. Yep. Voilà, voilà. Comment vous allez bien? Vous êtes bien dans le mug Nowtech. Aujourd'hui, c'est le récap et les facs. C'est le jour où vous pouvez poser des questions. On discute un petit peu plus entre nous. On va quand même avoir un sujet de tech puisqu'on va parler du Vision Pro. Hier, on est allé un petit peu vite dessus. Aujourd'hui, c'est le premier jour où il est en vente aux États-Unis. Pas mal de choses à dire sur les premiers retours sur ce casque VR d'Apple. Apple va me détester de dire ça, c'est magnifique. On parlera aussi d'autres news tech, on fera un petit peu un récap de ce qui s'est passé. Nous sommes le vendredi 2 février 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce vendredi. Nous accueillons également notre merveilleux sponsor de cette émission, HelloFresh. HelloFresh, je vous en parlerai tout à l'heure. Nous sommes ensemble pour 2 heures. Et oui, on va terminer à 10 heures aujourd'hui, parce que c'est comme ça. Donc, on a le temps, on va prendre le temps, on va discuter ensemble. Est-ce qu'on va parler du nouveau Bard ? Je suis en train d'essayer le truc. J'ai pas d'article particulier dessus. Il y a effectivement des nouveautés dans Bard, notamment la génération d'images. Faut que je bricole un peu avec. On en reparlera, je pense. Bon, après, on peut en parler aussi ce matin. Hein. On est un peu en libre antenne, comme on disait autrefois à la radio. Vous faites autant l'émission que moi, comme tous les jours, mais encore plus le vendredi. Voilà, le vendredi, c'est relâche. Je prépare moins mes articles. En gros, je m'épargne un jeudi soir de travail. Un mug plus improvisé, ça sera un peu la formule du vendredi qui évoluera peut-être. J'ai envie que le vendredi, le mug soit un peu différent. Donc, on verra ce qui marche, ce qui marche pas. Comment vous allez bien déjà ce matin? Est-ce que vous avez la forme? Forcément, c'est vendredi, donc bientôt le week-end. Comment vous allez bien? Je vois qu'il y a du monde, en tout cas ce matin, ça c'est cool. Ça c'est cool. Merci également Romuald de 75 pour ton 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci aussi, c'était hier, mais je crois que je ne l'avais pas remercié, Melox51 pour ton 15e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Bon, bah, tout le monde a l'air d'aller bien. Personne ne répond dans le chat. Hein. Ça pourrait être pire. Bonne réponse. On évite d'évoquer l'état digestif. Electribe, j'ai envie de dire lâche-toi. Ah non, c'est pas Electribe qui a dit ça. C'est Anaïs Cerise, pardon. Vendredi, tout est permis. Allez-vous faire des crêpes de la Chandler? Ah putain, j'allais dire la Chandler. Rest in peace. Salut Basti. C'est la Chandler. Chandler Bing. Oui, c'est vrai. Ah putain, est-ce que l'on va faire des crêpes ce week-end? En fait, ah oui, d'ailleurs, ça me permet de dire, je prends 2 jours de congé. Marion et moi prenons 2 jours de congé lundi et mardi. Donc, il n'y aura pas de mug mardi. Voilà, parce qu'on est en congé. Il vous faut une autre excuse, il vous faut un mot. Et vous voulez un mot du patron, je vous le fais tout de suite. Hein. Tant qu'il y a de la crêpe, il y a de l'espoir, c'est clair. Le monde ne sera pas foutu tant qu'on pourra faire des crêpes. Ouais, mais la crêpe, c'est pas écologique. Ne mets pas les pieds là-dedans, Jérôme. Je suis en repos avant un week-end de 24 heures au travail. Bon, bah, bon courage à toi, Electribe. Crêpe ou galette? La Chandler, c'est quand même plus crêpe. Mais après, t'as le droit de te faire des galettes en entrée. Ah non, c'est toi ou Marion, pas les deux. Ah, on va peut-être avoir un petit problème, Sébastien. Merci beaucoup, Pierriche, qui a offert 3 abonnements communautaires. Un grand merci à toi. Je viens de finir 20 crêpes pour les collègues. Comment vous faites pour garder vos crêpes au chaud quand vous faites 20 crêpes? Ou comment vous les réchauffez après, avant de les servir? Oh, t'as toujours pas mangé ta frangipane cette année? Oh mon Dieu, mon pauvre. La crêpe est un progrès ou une innovation? Alors, si vous êtes très curieux et que vous aimez remonter dans les archives du web, vous cherchez sur la chaîne crêpe ou gaufre. Je crois qu'il y a il y a au moins 8 ans, ouais, 7-8 ans, j'avais fait une vidéo pour le 1er avril où je faisais un comparatif entre les crêpes et les gaufres. C'est un peu cringe à regarder. Hein. C'était une autre époque. C'est un humour très particulier. Je me suis beaucoup marré à la faire. Le résultat, je l'ai regardé il y a 2-3 ans. Ouais, ça n'a pas hyper bien vieilli. Le test ultime de la pâtisserie mobile, ouais. Voilà, Samuel vous a donné le lien. C'était une tentative de... C'était une époque où je me disais que c'était cool de faire des vidéos complètes qui m'avaient demandé un travail de ouf pour le 1er avril. Mais c'était une autre époque, quoi, on va dire. Et si tu nous regardais dans les yeux, c'est vrai, j'ai changé de caméra, mais je lis le chat en même temps. C'est compliqué de faire du stream. Ouais, on parle de crêpes. C'est vendredi, on est relax. Hein. Dites-vous, faut quoi? Un tableau Excel des sujets, peut-être? Vous voudriez quoi aussi, qu'on termine à l'heure? C'est quoi? Vous êtes Marie Kondo ou quoi? Excuse pas validée. Oh là là, mais il n'y a que des règles. C'était mieux avant. Les crêpes au gravier, c'est quand même exceptionnel. Ça ne manque pas de croustillant, en tout cas. L'époque où j'étais drôle, ouais, ouais. Un temps révolu. C'était mieux avant. On n'avait pas de sponsor non plus. L'insouciance. L'insouciance et les crêpes, ça me fait penser... Alors, chaque fois que je dois en parler, je dois afficher ça. Ça me fait penser que... merci à notre sponsor HelloFresh qui nous accompagne pour ce vendredi et vendredi prochain. Je vous parlerai un petit peu en fin d'émission d'HelloFresh. Toutes les questions que vous pouvez avoir sur HelloFresh, parce que c'est vrai que c'est un engagement, on peut se demander comment ça marche et tout. Moi, j'ai une grande expérience quand même d'HelloFresh. Non sponsor, puisque pendant un an, j'ai payé mon HelloFresh. On avait quasiment du HelloFresh toutes les semaines. Donc, si vous avez des questions sur comment ça marche et tout ça, nous serons là pour en parler. Mais qu'est-ce donc qu'HelloFresh? Eh bien, écoute, HelloFresh change de caméra. HelloFresh change la façon dont les personnes mangent pour toujours. HelloFresh est le leader mondial des kits repas. Il livre tous les ingrédients pour cuisiner de délicieux repas directement à la maison. Leur boîte contient des fiches recettes qui vous indiquent comment cuisiner étape par étape et des ingrédients frais et de haute qualité qui sont pré-mesurés en quantité exacte afin qu'aucun aliment ne soit gaspillé. Bon, là, oui, je suis en train de vous lire le pitch, mais en fait, HelloFresh, je connais par cœur. Je vous en parlerai. Je vous montrerai aussi des vidéos que j'avais faites de préparation HelloFresh. Donc, je vous parlerai de manière spontanée. Et on ne se cachera rien. Je vous parlerai aussi de certains défauts d'HelloFresh que moi, j'ai constatés. Et pas des défauts, mais des trucs contournables aussi. Des manières aussi de bien utiliser HelloFresh. Voilà. Merci beaucoup pour ton Prime, Manupop. Ton 33e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Vega Blast également pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Brifon également pour ton 17e mois d'abonnement. Pierre-Rich, je t'ai déjà remercié, ouais. Quoi, mais tu veux dire que tu pourrais me faire livrer de délicieux repas grâce à HelloFresh et Nowtech? Oui, et à moins de 3 euros le repas en utilisant notre... code promotionnel POGHELLOFRESHFR01 4052. Non, faites juste point d'exclamation HelloFresh. Si vous êtes impatient, et que vous voulez aider la chaîne aussi, vous faites point d'exclamation HelloFresh dans le chat et comme ça, vous aurez le lien et le code promo. Le code promo est, on est d'accord, pas génial à dire à l'oral, mais c'est comme ça. Ouais, mais on en parlera. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous, effectivement, vous êtes aussi chez HelloFresh et on en parlera. Bon, si on parlait d'autre chose, on reviendra. De toute façon, HelloFresh reste avec nous pendant tout le mug. Hein, il sera là. Elle a le Wi-Fi 7. N'importe quoi, Oleg. Non, on va parler... parlons déjà un petit peu de la semaine. La semaine, il y a eu quand même pas mal de news. On va faire un récap très rapide quand même des news, moi, qui m'ont intéressé cette semaine. On parlera effectivement du Vision Pro. On regardera peut-être ensemble, sans mettre le son, mais par exemple la vidéo de MKBHD, la vidéo qui est sortie il y a 2 jours. On fera un peu le récap des avis, effectivement, des premiers journalistes et youtubeurs qui l'ont eu en main. On peut le dire, effectivement, les premières critiques sont mitigées. J'expliquerai un petit peu ce mitigé. Il y a du très bon, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est un prototype, ça paraît assez clair. On en parlera ensemble tout à l'heure. Dans les choses aussi importantes cette semaine, même si je l'ai traité rapidement hier, en fait, la rupture de contrat entre TikTok et Universal va avoir, c'était cet article-là, va avoir quand même des conséquences assez énormes sur TikTok. Je suis en train de le voir ce matin parce que je regardais des TikTok sur le sujet. En fait, ce qu'il faut comprendre, si vous n'êtes pas dans le TikTok-verse, TikTok repose énormément sur les extraits musicaux qui font parfois les trends. Il suffit parfois de mettre la bonne musique sur son TikTok et vous allez être dans une trend TikTok, ça va faire monter vos vues, etc. Et là, ce qui va passer, parce que je crois que c'est plus de 3 millions de chansons qui vont être bloquées d'ici quelques heures, puisque c'est la rupture du contrat avec Universal, ça va faire que plein de vidéos TikTok qui cartonnaient vont avoir le son coupé. Et pas que d'ailleurs la musique, mais même s'il y a des voix off au-dessus de la musique, le son TikTok, c'est assez radical. Quand il vous coupe la musique, il coupe tout. Donc on va avoir des TikTok muets qui du coup vont dégringoler. Ce qui crée un petit mouvement de panique quand même chez beaucoup de gros TikTokers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que TikTok, il y a beaucoup la notion de catalogue. Dans le sens où un gros TikToker va publier entre 1 et 3 TikTok par jour. Mais les TikTok, on ne les voit pas forcément par ordre chronologique. TikTok, l'algo va vous recommander des trucs et parfois puiser dans des catalogues de TikTokers et faire remonter des TikTok qui datent d'il y a une semaine, un mois, etc. Parce que l'algo pense que ça va vous intéresser, donc il vous le recommande. Le truc, c'est qu'avec la rupture de contrat d'Universal, il va y avoir des trous immenses dans les catalogues de certains TikTokers. Donc ça pose des problèmes. Et alors, un peu d'empathie. Je regardais ce matin le TikTok d'un mec qui vient, il a composé un morceau de musique qui, depuis une semaine, trend à mort, repris notamment dans les pays asiatiques. Donc, sa chanson est reprise, donc il est vraiment dans un cercle vertueux, parce que du coup, les gens vont chercher sa musique après sur les plateformes, etc. Donc, super cool. Et il explique que hier, il a vu la news Universal et c'est un artiste Universal. Donc, en gros, il se fait briser les jambes par cette rupture de contrat juste au moment où il commençait à décoller. Donc c'est un petit peu dur. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on disait hier, c'est qu'en fait là on est en train d'assister à un bras de fer. Aujourd'hui TikTok est devenu très important pour les majors, pour la promotion de la musique. Pour vous résumer, je vous l'avais résumé hier, TikTok c'est un peu la radio des années 80. Dans les années 80, quand vous faisiez de la musique, si vous vouliez percer, il fallait passer à la radio. Aujourd'hui, si vous voulez percer, il faut passer sur TikTok. Je sais que pour les gens qui ne regardent pas du tout TikTok, vous dites que ce n'est pas si important que ça. Vous sous-estimez la puissance de TikTok, c'est absolument énorme. Donc TikTok, eux, c'est ce qu'ils disent. Ils disent dans le bras de fer, Universal, on va vous donner moins d'argent et vous allez rien dire parce que nous, on vous offre la visibilité à votre musique. En gros, on est la radio. Donc, nous sommes le pouvoir de la musique, de recommandation de la musique. Et Universal, et c'est ce qu'on avait expliqué hier, dit non, ta visibilité, parce que ça ne me rapporte pas d'argent directement. Et en plus, tu es en train de bricoler des trucs avec l'intelligence artificielle qui va permettre de composer des musiques qui ressemblent aux miennes sans me payer mes copyrights et tout ça. Donc, pas content. Voilà, donc c'est un bras de fer. Tu n'es pas obligé de passer par TikTok pour percer, mais oui, ça propulse. En fait, Néo, t'as raison et t'as tort. C'est un peu comme si tu me disais que t'étais un groupe des années 80, t'es pas obligé de passer à la radio pour percer. C'est vrai dans certains cas, certains groupes dans les années 80 ont percé sans être pris par la radio. Mais on va dire dans le marché mainstream de la musique, aujourd'hui, TikTok, c'est la radio. Voilà. Non, les vidéos TikTok ne sont plus limitées. Justement, TikTok pousse de plus en plus au format long. Hein. C'est plus des vidéos d'une minute. Ah, il n'y a pas de règle, hein, Reza. On est dans le mug du vendredi. Il n'y a pas de sommaire. C'est le zbeul, le vendredi. Étant donné que c'est des trends, le succès des artistes n'est-il pas tout aussi éphémère? Là aussi, Kashiro San, dans les années 80-90, les succès des groupes qui passaient à la radio, on nous bassinait pendant 2 mois avec un morceau, et il y a plein de groupes comme ça, ils ont fait un tube et ils ont disparu. Donc ça n'a pas tellement changé non plus, hein. C'est la faute, de toute façon, tout est de la faute de l'IA. Avant, tout était de la faute de Guillaume. Maintenant, tout est de la faute de l'IA. Guillaume était-il une IA? C'est une autre question. <rire> 15 minutes max maintenant pour les vidéos TikTok, ouais. Non, TikTok est également dans les nouveautés TikTok. TikTok commence à pousser les créateurs à faire, et là, ça va vous faire rire, à faire des vidéos horizontales et non plus verticales. Serait-il en train et aurait-il YouTube dans la ligne de mire? Oui. Tout à fait. Bon, dans les autres news que j'ai trouvées intéressantes cette semaine, on a parlé de l'implant Neuralink d'Elon Musk. Il y a eu l'affaire Taylor Swift avec les deepfakes. Effectivement, ça, c'est important. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. On a répondu hier aussi à est-ce que Samsung va rendre Galaxy AI, toujours la faute de l'IA, payant. Samsung a un peu éclairci les choses. Ils ont dit non, les formules d'IA que vous avez aujourd'hui dans les S24 et bientôt dans les S23, elles resteront gratuites. Ça sera un abonnement un peu prime Google AI quand on mettra des fonctions plus avancées d'IA. À voir. Ils ont dit que tout ça resterait gratuit jusqu'à 2025. On verra. Marion avait parlé effectivement des pubs dans Amazon Prime. Donc ça arrive. On voit que les formules avec pub pour la SVOD marchent plutôt bien. On a eu déjà beaucoup de débats là-dessus. De quoi on avait parlé? Bon, du Roomba, que Amazon abandonne son contrat avec le Roomba. Effectivement, la modération revient chez X, on a envie de dire, Elon, pourquoi tu les avais virés? J'ai lu un entrefilet ce matin qu'ils réembauchaient des gens à la modération chez Twitter, mais tu n'avais pas le droit d'être quelqu'un qui avait déjà travaillé chez Twitter. Bref, Twitter, X, ton univers impitoyable, vieille ref. Qu'est-ce qu'elle avait traité, Marion? J'ai pas beaucoup écouté son mug parce qu'on était en train de travailler sur autre chose pendant qu'elle faisait son mug. Hotel Chocolate and Gravity Road Mix Up a World of Happiness. Oula, je l'avais pas lu cet article. Moi, je le lirai. Effectivement, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine de la pub, permet de générer automatiquement des pubs. Est-ce qu'on va voir un peu de la pub générer ce qui... Alors, je sais ce que vous êtes en train de penser, ça va être de la pub bas de gamme, parce que c'est un peu ce que je disais l'autre jour, justement, sur Twitter et sur Threads. C'est intéressant comme le mot intelligence artificielle est un peu en train de devenir le synonyme de mauvaise qualité. « Oh, ton truc, on dirait qu'il est généré par IA ». C'est la phrase que j'entends de plus en plus. C'est un peu comme on disait il y a 3-4 ans, « Oh, ton truc, on dirait que ça vient de chez Wish, quoi ». Et aujourd'hui, de dire on dirait que tu as écrit ce texte par intelligence artificielle, c'est un peu synonyme d'un truc bas de gamme. Ce que je comprends, parce qu'il y a ce côté automatisé, rarement très créatif, de l'intelligence artificielle. Après, sans refaire le débat, moi, ce qui me gêne, en fait, dans ce truc-là, c'est le côté un petit peu absolutiste de un truc n'est pas fait avec IA, un truc est fait avec IA. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous le garantis, vous allez le voir, bientôt il y a des gens qui vont se vanter, cette vidéo n'a pas été créée avec de l'intelligence artificielle. Cette image n'est pas faite avec de l'intelligence artificielle. Ça va devenir un espèce de label qualité dans pas très longtemps. Ça va arriver. Et d'un autre côté, on va voir fleurir des logos plus ou moins obligatoires. Cette image, ce texte a été généré par IA. Le problème, c'est que la réalité, il y a un entre-deux. Moi, il y a absolument rien, quasiment même, non, on va dire rien. Il n'y a rien de ce que vous voyez sur la chaîne qui a été 100% généré par l'IA. Par contre, dans tout ce que vous voyez sur la chaîne aujourd'hui, il y a des bouts d'IA. Et ça, il n'y a pas un label qui me permettrait de dire « j'ai un peu utilisé l'IA, mais enfin, ça reste moi qui ai écrit les vidéos, quoi. Mais l'IA m'a aidé à recomposer certaines phrases parce que j'écris comme une merde. » Voilà. Ça ferait un peu long pour un label, vous êtes d'accord ? Et c'est un peu le problème que j'ai avec ce... Et je reviens sur la pub. Vous vous souvenez, on avait parlé de cette pub, je crois que c'était pour une station de ski, c'était Méribel ou je sais plus. Bref, une station de ski lambda qui avait sorti une affiche sur laquelle il y avait en arrière-plan, il y avait la montagne toute jolie. Et en avant-plan... Il y avait un couple assis dans la neige et à côté un couple de renards assis dans la neige. Et croyant bien faire, les mecs qui avaient fait cette affiche avaient mis un espèce de label. Cette pub a été générée avec de l'IA. Et là, on leur est tombé dessus, genre, ah ouais, parce que la nature, elle est pas assez belle, t'as besoin de l'IA pour faire ton affiche, bah super, on a vachement envie d'aller dans la montagne si elle est générée par IA. Non, la montagne en elle-même n'avait pas été générée par IA, c'était le couple en avant-plan et les deux renards, et le couple de deux renards. Vous auriez préféré que ça soit une photo avec des renards empaillés qu'on ait tués pour faire l'affiche. Et c'est ça, vous voyez la subtilité. La photo de la montagne n'avait pas été générée par IA. Et vous voyez où je veux en venir ? C'est un peu le problème qu'on va avoir avec ce label généré à l'aide de l'IA. C'est que il faudrait préciser qu'est-ce qui a été généré par l'IA. Et encore une fois... la décision des graphistes qui ont fait cette affiche... Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours sur l'IA. L'IA me propose des trucs, c'est moi qui ai choisi de les utiliser. C'est un outil. L'IA ne fait pas les trucs à ma... Alors, l'IA va exécuter certains trucs à ma place. Mais par exemple, quand moi, je me fais générer une... Souvent, j'écris un truc, c'est écrit comme une merde. Je soumets à l'IA, je lui dis ben, « propose-moi autre chose pour cette phrase, tu n'aurais pas une manière plus cool d'écrire ça ?» Et il va me proposer une phrase. Parce que je suis quelqu'un, j'ai un style très, très littéraire quand j'écris, et j'ai du mal à trouver un style parlé quand j'écris, Et pourtant, dans mes vidéos, j'ai un style parlé. Ouais, je vous expose mon problème. Donc, l'IA m'aide parfois à convertir des phrases qui, pour moi, sont trop scolaires, trop ampoulées, de les convertir dans un langage plus facile à dire, en fait. Mais l'IA me propose, mais après, parfois, elle me propose un truc, ça ne me va pas. Alors, soit je lui redemande, soit je compose la phrase moi-même. Donc, je m'en sers comme d'un outil, comme d'une aide. Mais c'est moi qui continue à écrire le truc. Ça, pour moi, il n'y a pas énormément de différence entre un correcteur de style et un correcteur orthographique ou grammatical. Ouais, on pourrait parler effectivement de conception assistée par l'IA. Si t'ajoutes un wesh en fin de phrase, ça fera moins littéraire. Nonobstant les modifications profondes que Apple a apportées à son système de micro-puces, wesh. IA raisonné. Alors, en fait, c'est pour ça que... Mais bon, après, je prêche dans le désert. Je serais plus pour un label, non pas image générée par IA, mais plus pour un label photo authentique. Après, qu'est-ce que c'est qu'une photo authentique? Bon, il y a plein de questions qui se posent. Mais je serais plus pour un espèce de label qui nous permette de voir le trajet d'une photo. Moi, j'aimerais bien un espèce d'exif sur les photos qui me permettent de voir cette photo a été prise par tel appareil. Ensuite, elle a été retouchée ou développée sur Lightroom. Cette partie, elle a été travaillée avec le tampon de Photoshop. Et finalement, il a généré un renard qu'il est venu coller avec le côté génératif de Photoshop sur un coin de la montagne. Voilà, c'est cette info-là que j'aimerais voir. Mais bon, tout ça va être compliqué à mettre en place. Non, mais si on met le CV de l'image, personne ne le lira. Oui, mais tout le monde pourrait le lire. La question n'est pas, bien sûr, personne ne va la lire, mais si tu as un label que tu peux cliquer, si tu as un doute sur une image, au moins c'est consultable. L'exif plus lourd que la photo, bravo l'écologie, wesh. Bah, moi, je lirais si j'ai un doute. Là, on est en train de partir à la dérive, mais vous avez vu aussi l'histoire des taches rouges dans les mains de Trump. Il y a une image de Trump qui lève la main et il a des taches rouges dans les mains. Et donc, les journalistes ont dit, il y a un problème médical ou t'as égorgé quelqu'un ou ça se passe comment là? Et Trump, avec toute sa manière de dire les choses, il a dit « Ouais, c'est probablement de l'intelligence artificielle. » En gros, des mecs m'ont ajouté des taches rouges dans les mains avec l'intelligence artificielle. Vous voyez, donc, l'IA, ça commence à être le truc « Ouais, non, mais de toute façon, c'est fake. C'est quelqu'un qui a dû me trafiquer avec l'IA. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est que maintenant, des malins commence à utiliser le côté « toute image est potentiellement retouchée » dans l'autre sens. Parce que peut-être qu'effectivement, les taches dans les mains étaient vraies et que c'est peut-être une maladie et c'est une information importante pour un mec qui se présente à la présidentielle US. Voilà quoi. Un vrai appareil, c'est un argentique. Tu vois, ces débats-là, ils ne sont pas nouveaux. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'une vraie photo? C'est déjà un débat en soi. Une photo est-elle la vérité? Non, ça n'a jamais été la vérité, une photo. Mais bon, Tout ça pour revenir à l'article, on est parti loin, mais le côté, si vous voyez des pubs avec des labels faites par IA, vous allez vous dire c'est de la merde. Je pronostique ça, l'IA devient le nouveau truc basse qualité en fait. Il y a quand même 50 personnes qui regardent le live sur YouTube. Ouais, non, mais attends, YouTube n'a pas dégringolé sur les lives et même est en train... C'est une news d'ailleurs que je ne vous ai pas fait cette semaine, mais on peut en parler un petit peu pour ceux qui suivent le gala des créateurs de contenu. Pokémon, qui est une grande streameuse, même la plus grande streameuse, je crois. Je crois que c'est la plus grande streameuse, a annoncé là, il y a 2 jours qu'elle quittait Twitch. Mais on ne sait pas où elle va. Ou si, d'ailleurs, elle va quelque part. Peut-être qu'elle a dit, ouais, j'ai assez de sous. Je vais me la couler douce. Tant mieux pour elle, d'ailleurs. Mais certains disent qu'elle va arriver sur YouTube. D'autres disent qu'elle va arriver sur Kick. Peut-être que YouTube est en train de préparer son Twitch. Comme Twitch va mal, faut voir. Moi, je ne vous cacherai pas qu'on y réfléchit hein, aussi hein, à revenir plus fort sur YouTube. Pour l'instant, si on avait quitté, parce qu'à une époque, on faisait nos lives sur YouTube. Si on a quitté YouTube à une époque, c'est que franchement, ils n'étaient pas à la hauteur quoi, par rapport à Twitch. Pour un tas de raisons, notamment, par exemple, les subs et les primes. On pense qu'à l'argent. Hein. Twitch demain annonce qu'il enlève les primes, on perd un sérieux avantage. En parlant de prime, merci beaucoup Laetitia Geek pour ton prime, 19e mois d'abonnement. Merci Alias Lu pour ton 43e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du zbeul. Merci Jimai68 pour ton prime. Merci à vous, les contributeurs. Oui, non, mais après, je suis d'accord, hein, Pépé Nécro. YouTube, il faudrait qu'il fasse des efforts pour que les lives soient... Mais tu sais, tu as des gamers aux États-Unis qui utilisent que YouTube. Hein, ils sont pas du tout passés sur Twitch. Hein. C'est pas une absolue. Hein. YouTube est rentable, c'est-à-dire dans quel sens ? Tu feras des lives verticales. Alors, pour la petite histoire, mes 3 premiers lives, ça s'appelait pas le mug à l'époque, mais de Techscope, étaient en vertical. Et si vous êtes contributeur, je relance la mode du live vertical contre mon gré pendant les jeudis contributeurs. Padawan est resté sur YouTube, ouais. Le label streamé sur YouTube, c'est Wish, ouais. Mais voilà, c'est un signe des temps quand même. Quand on vous dit que Twitch va mal, je pense que ça ne les arrange pas non plus que Pokémon se barre. Hein. Parce qu'elle en drivait hein, du monde sur Twitch. Hein. Donc, à voir. Mais moi, de toute façon, ça fait 2-3 ans que je dis que Twitch va mal. Hein. Ils ne sont absolument pas rentables Ça me surprendrait pas qu'Amazon les lâche à un moment. Mais on verra. Perso, ça m'énerve de passer sans arrêt entre Twitch et YouTube. Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde, YouGravis. Ouais. Amazon lâche Twitch. Là, ils vont très très mal, si c'est le cas. Nous, on a débarqué sur Twitch à la fin des confinements, au début des confinements. Donc, c'est 2020, c'est ça ? Donc, ouais, ça fait 3 ans, hein, au moins. Alors, l'ergonomie est meilleure sur YouTube pour les lives ? Par exemple, les outils de modération sont très très loin d'être aussi bons que ceux de Twitch. Ils pourraient être rachetés par YouTube. YouTube n'aurait aucun intérêt à racheter Twitch. Par contre, YouTube aurait tout intérêt à ce que Twitch meure. Tu sais, parfois, ça peut être un bon move aussi de laisser l'autre crever. C'est horrible à dire, mais bienvenue dans le monde merveilleux du capitalisme. Les quoi ? Il y a des outils de modo. Non, mais c'est vrai que sur YouTube, au niveau des outils de modération, ils ont 10 ans de retard sur Twitch, quoi. Et je peux vous dire, nous, notre équipe modération, elle freine des cas de fer en disant « Ah, on veut pas aller sur YouTube, on veut pas. » Et la modération, c'est super important dans les lives. Donc, c'est effectivement, je le dis, tant qu'il n'y a pas des grosses améliorations, à moins d'être obligé de partir sur YouTube parce que Twitch se casse la gueule, j'attends quand même des moves de la part de YouTube sur les outils de modération avant de prendre des décisions, quoi. Twitch chez Microsoft, un move intéressant. Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas que vous oubliez, parce que vous l'oubliez souvent. Vous dites Twitch, ouais, ça pourrait être intéressant que quelqu'un le rachète. Twitch coûte un pognon de malade. La bande passante qu'il faut pour faire tourner Twitch, ça coûte énormément d'argent. C'est pas rentable du tout. Donc vous vous dites, oui, mais c'est célèbre, il y a plein de vues et tout. Mais malgré toutes les vues qu'ils ont, ça ne rapporte pas un copec et ça fait dépenser de l'argent. Donc je suis pas sûr qu'un Microsoft ou un YouTube ait envie d'acheter comme ça une vache éventrée, quoi. Ça, vous oubliez un truc, c'est qu'aujourd'hui, Twitch, ils perdent de l'argent tous les jours. En regardant Twitch, vous faites perdre de l'argent à Amazon. Ça, il y en a, ça fait plaisir. Mais il faudrait autant de bandes passantes si YouTube mettait en avant les lives. Oui, mais alors ça, j'en sais rien, mais... YouTube, la gestion de la bande passante est peut-être différente. Ils ont peut-être des optimisations que n'ont pas Twitch, je n'en sais rien. Pourquoi YouTube n'a pas annoncé une amélioration de la modération ? Bah, par rapport à ce que je viens de dire, peut-être que YouTube n'a pas vraiment envie que les lives décollent vraiment sur YouTube parce qu'ils connaissent le prix de la bande passante pour faire des lives. Une question que je me suis posée, est-ce que Twitch peut trouver une rentabilité par le seul fait de grossir ? Non, juste, c'est une très très bonne question, Kinder, et je me répète, mais c'est important que vous le compreniez tous. Grossir peut vous tuer si vous n'avez pas le business model qui accompagne cette augmentation. En gros, chaque vue d'un live ou d'une vidéo YouTube vous coûte de l'argent, notamment en bande passante. Donc quelqu'un qui regarde du contenu vous coûte de l'argent. C'est même pas qu'il vous rapporte zéro, c'est que quelqu'un qui regarde quelque chose sur Internet consomme de la bande passante. Et la facture, c'est vous qui la recevez. Donc, si Twitch grossit son nombre de vues sans grossir le revenu publicitaire qui doit aller avec ses vues, ils vont agrandir leur déficit, en fait. Vous comprenez le problème ? Le problème, c'est toujours l'argent. c'est que diffuser sur Internet du contenu coûte de l'argent. Donc, si vous diffusez et qu'il n'y a pas de la pub... Bah, ça vous rapporte zéro. Twitch doit quand même avoir des prix d'amis. Alors, là aussi, vous avez des grosses confusions. Amazon, c'est pas eux qui facturent la bande passante, ils ont les serveurs. En fait, la bande passante, c'est d'autres sociétés qui gèrent ça. Alors, ça devient confus parce qu'effectivement, Amazon a aussi des parties de l'infrastructure d'Internet. Ils ont investi dans des trucs, etc. Et en plus, pour être plus exact, c'est pas tant la bande passante qui coûte, c'est moi ce que j'appelle l'élasticité de la bande passante. C'est-à-dire quand vous avez un grand nombre de personnes qui regardent en même temps un truc, c'est cette élasticité, le fait de devoir élargir le tuyau très vite, ça, ça coûte beaucoup d'argent. C'est pas les serveurs hein, qui coûtent le plus d'argent. C'est en gros les tuyaux pour faire passer. Je suis très schématique, mais c'est les tuyaux pour faire passer le contenu des serveurs jusqu'à chez vous. Enlarge your bandwidth. Oui, il y a un peu de ça. Ah oui, tu parlais, effectivement. Mais effectivement, Amazon doit faire carrément un prix d'ami à Twitch au niveau des serveurs. De toute façon, ils ont un gros problème financier, Twitch, c'est une évidence. Il y avait qu'à voir la tronche des petits fours à la dernière TwitchCon et tu vois que l'entreprise, elle a un problème. Ils étaient secs et pas bons et on sentait les petits fours pas chers. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Un popular opinion, comme tu le dis, le gratuit, c'est fini. Les streamers devraient payer aussi leur droit de diffuser sur la plateforme. Ben oui, mais un streamer qui devrait payer son droit de diffuser, ben, il serait obligé aussi de faire payer les viewers. Parce que comment il le génère, le streamer, l'argent ? Alors, soit faire payer les streamers, soit avoir encore plus de pubs qu'aujourd'hui. S'il doit payer sa bande passante, le streamer. Alors, je sais, je le vois là, il y a des discussions parallèles, on devrait passer tout le contenu en 720p et tout. Ça améliorerait les choses, mais ce n'est pas la solution à tout, en fait, de baisser la résolution. Est-ce que le business model de Twitch est rentable ? Non, non. Et comprenez bien une chose, Amazon a acheté Twitch, pas forcément pour faire de l'argent avec Twitch. Amazon a acheté Twitch à une époque où Amazon voulait se lancer dans le jeu vidéo et devenir un grand acteur du jeu vidéo. Pour l'instant, ils se sont plantés. Ils n'ont pas réussi vraiment à faire une dent sur le marché du jeu vidéo. C'était une super plateforme pour eux, Twitch, pour se lancer sur le jeu vidéo. Amazon, à mon avis, est à deux doigts de dire « on jette l'éponge sur le jeu vidéo ». S'ils jettent l'éponge, ils vont jeter Twitch en même temps, hein. Est-ce qu'un streamer ne devrait pas payer un droit de stream comme une licence dev sur iOS ? D'accord, mais comment le streamer génère l'argent pour payer son droit de stream ? En fait, désolé, hein, mais l'économie, c'est complexe. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé une solution pour générer de l'argent de manière spontanée. Donc, c'est ce que je vous dis. Si les streamers doivent payer leur droit de diffusion, ils vous feront payer ce droit de diffusion, soit par plus de pubs, soit par des abonnements. Ils viennent de lancer Luna et ils jetteraient l'éponge si vite. Ça c'est souvent vu dans le marché de la tech, hein, de jeter l'éponge assez vite. Hein. Google étant les spécialistes, hein, Google, ils sont capables de jeter l'éponge en même temps qu'ils sont en train de signer le contrat de rachat. Comme chez Apple, seuls les streamers capables de justifier 1 million de chiffre d'affaires peuvent streamer. Oui, mais alors si Apple a mis ça, là on est dans une autre info, mais si Apple a mis ça en place... C'est aussi pour éviter des apps de merde, du spam dans les apps, en fait. Que tu doives prouver que tu as 1 million en banque pour ouvrir les droits à certains trucs dans l'App Store. Et il y a un truc aussi à prendre en considération, c'est que la bande passante a augmenté. Parce que finalement, la bande passante, c'est aussi de l'énergie. Le coût de l'énergie a augmenté. En fait, le coût d'Internet, combien coûte Internet, a augmenté. Internet a un coût de fonctionnement. Serveur, salaire, bande passante, tout ce qui fait tourner en fait Internet a un coût. Ce coût a augmenté. Voilà. Tout augmente sauf les salaires, exactement. Un million de chiffre d'affaires, il n'y a pas grand monde qui peut prétendre à ce level-là. Chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que je pourrais vous dire que je fais un million de chiffre d'affaires, si je dépense 1 100 000, bah je suis déficitaire. On ne va pas faire un vendredi compta, mais le chiffre d'affaires, ce n'est pas l'argent que ton entreprise garde. C'est l'argent que ton entreprise génère, mais après, il faut soustraire tes dépenses. Twitch est en déficit de combien par an ? On n'a pas les chiffres, ils ne sont pas officiels, t'imagines ? Non, mais moi, dans les grands mouvements qu'on commence à voir, Internet est en train de se redéfinir. C'est la fin absolue de l'Internet gratuit, enfin faussement gratuit, qu'on a connu depuis les années 90. Il y a une grande mutation d'Internet. Qu'est-ce que ça va donner au final ? Quels seront les nouveaux business models ? C'est à voir. Mais c'est la fin d'une époque, clairement. Ah non, le Gitounou, là, je pense que tu fais une erreur d'interprétation. Tu me dis, arrête Jérôme, pendant le confinement, tout marchait à fond. Netflix, PC, ça coûtait rien. Il n'y avait pas de prise de tête, prix de l'électricité, des formules. Tu oublies une chose, en fait. Oui, tout allait bien pendant le confinement. Pourquoi ? Parce que les vues publicitaires ont explosé. Souviens-toi, pendant le confinement, les ventes de PC. Tout le monde achetait plein de trucs sur Amazon. Ça a été, on va dire, globalement, les 3 ans, enfin les 2 ans, 3 ans de confinement, etc., ont été d'ailleurs un leurre économique. Beaucoup d'entreprises se sont mis à embaucher, etc., parce que il y a eu, les gens n'avaient presque rien d'autre à faire que de dépenser de l'argent. On a connu une manne publicitaire incroyable. C'était fou. Et d'ailleurs, pourquoi beaucoup de boîtes en ce moment dans la tech virent ? C'est parce qu'elles ont surembauché pendant cette période-là. En fait, on le sait maintenant, hein, les économistes, alors ça dépend des secteurs, mais globalement, les confinements ont été un boom économique. Une illusion, mais un boom économique. Bah, Nowtech, oui, je ne vais pas vous mentir. Sur les lives mug, on était 1000, 1500 en simultané et on faisait des 10 000 vues sur le mug pendant le confinement. C'est plus du tout ce qu'on fait. Et pareil, on a eu... Alors, on en a mal profité parce que le problème, c'est que nous, ça a cassé un peu les jambes de notre productivité aussi. On a eu du mal à s'organiser sur tout le premier confinement. Donc, on n'en a pas hyper bien profité. Et puis nous, il y avait des charges incompressibles. Hein. Je continuais à payer les loyers du studio, etc. Mais bon, globalement, oui, les sponsors qu'on a eus pendant ces périodes de confinement, ça marchait bien. Et on faisait des tests de PC. Les marchands de PC vendaient des PC comme jamais ils en avaient vendu, quoi. Et n'oubliez pas en plus qu'il y a énormément d'argent qui a été injecté par les États pour éviter effectivement un effondrement économique à cause des confinements, ce qui a donné une illusion économique. De plus en plus, les économistes parlent des entreprises zombies de la période des confinements, des entreprises qui auraient dû mourir avant le confinement parce qu'elles n'étaient pas rentables, avec les subventions, ont survécu 3 ans de plus et sont des entreprises ou étaient des entreprises zombies qui maintenant s'effondrent en fait. Donc voilà. Bon, si on parlait un petit peu du Vision Pro, hein, parce que c'était le gros dossier d'hier, effectivement, c'est le premier jour où le Vision Pro est dispo aux États-Unis. Et je voulais vous en parler un petit peu en détail. On va regarder ça ensemble. Je vous rappelle qu'on est là ensemble jusqu'à 10 heures, hein, aujourd'hui, exceptionnellement. Enfin, exceptionnellement. On est là jusqu'à 10 heures. Voilà. Donc, on a le temps. Ce que je voulais, en muet en tout cas, on va mettre, si je la trouve, la vidéo de MKBHD pour que je puisse vous en parler. Moi, c'est ce que je vous disais hier, c'est que j'ai regardé quasiment toutes les vidéos des journalistes et des youtubeurs tech américains qui, depuis mardi, effectivement, ont le droit de publier des vidéos sur le Vision Pro. Je vous avais conseillé hier les 3 vidéos que j'ai trouvées les plus intéressantes sur le Vision Pro. Pour moi, la plus intéressante, c'est celle de The Verge. Ensuite, il y a celle du Wall Street Journal. La vidéo que j'ai trouvée vraiment cool. Et ensuite, pour moi, celle de MKBHD. Mais bon, c'est un très bon trio de tête, quoi. J'ai moins aimé les vidéos d'autres, mais elles sont intéressantes aussi. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il dit. Est-ce que vous allez avoir l'image? Oui. Il n'y a pas le son, c'est bon, il est bien coupé. Donc voilà, il a fait alors il a fait un unboxing que ça on va pas regarder, mais qui montrait effectivement les grandes qualités. Enfin que c'est un prototype certes, mais un prototype très bien fini, on va dire. Ça on l'avait vu dans l'unboxing. Et là il parle un petit peu de son expérience. Alors c'est le premier truc à dire. Ce qu'ils disent tous, c'est que c'est difficile à montrer. C'est très, très difficile de montrer ce qu'on voit dans un Vision Pro. OK ? Attendez, je baisse un peu le volume chez moi parce qu'il me gêne. Et ça, c'est une vraie constante. C'est, y a pas vrai, alors, y a un truc pour capturer l'écran du Vision Pro. Donc, on peut voir effectivement... une vision parcellaire, mais on n'a pas du tout cette impression d'immersion dans l'image. Donc, c'est très difficile à partager, en fait. Notamment, et c'est ce que disent The Verge, c'est difficile d'expliquer le champ de vision. Le champ de vision, il est plus étroit que ce qu'on a dans le Quest 3 ou le Quest Pro, je ne sais plus. Ça a l'air d'être moins de 110 degrés, si je me trompe pas. Donc, ce que dit The Verge, c'est que oui, on est immergé, mais on est immergé. Mais faites ça, faites tout ça en même temps. Voilà. Faites ça. Voilà. C'est à peu près comme ça que vous allez voir le monde avec un Vision Pro. Voilà. Comme si vous regardiez le monde avec des jumelles, pas tant le côté grossissement, mais plutôt le côté... Les côtés sont un peu cachés. Si vous les regardez à droite ou à gauche, faut tourner la tête. Voilà. Et surtout, clipper ça, tout à fait. Donc, ça, c'est effectivement un premier truc. Donc, il explique aussi ce que dit MKBHD, qui est intéressant, c'est que l'immersion du son est hyper bien faite, ça, par contre. On a 2 écouteurs sur les bords du Vision Pro et la retranscription du son. Par contre, si vous êtes à côté de quelqu'un, il va entendre quand même ce que vous entendez. Si vous voulez vraiment vous isoler, il faut mettre des AirPods ou n'importe quel écouteur en plus de votre casque VR, quoi. Merci Jérôme, j'ai l'air d'un fou dans le bus. C'est pas grave, c'est au nom de la science. Bon, là, il montre effectivement, au niveau de la finition, il n'y a rien à dire. C'est un produit qui a l'air très bien fini. Mais le choix des matériaux est, moi, je trouve quand même contestable. On sait qu'un problème que tous les journalistes évoquent, c'est le poids de l'engin. C'est quasiment le poids d'un grand iPad, hein, d'un iPad de la taille du mien, sur votre visage devant. Et en plus, les choix de conception d'Apple, qui est que la batterie n'est pas derrière, mais dans votre poche arrière, fait que vous n'avez pas un contrepoids. Alors, pour rétablir les choses, c'est moins lourd que certains casques VR du marché. Mais ce que disent The Verge, MKBHD et d'autres, c'est que le problème, c'est que l'ensemble du poids repose sur l'avant du visage. Donc, le nez, le front. Vous avez vraiment tout le poids de l'objet sur l'avant du visage. Ce qui fait que Apple, et ça, c'est pas très Apple quand même, a livré deux types de supports. Soit vous avez le grand bandeau, un peu classe quand même, on peut le reconnaître qu'a fait Apple, celui qu'on est en train de voir dans la vidéo. Soit vous avez un truc où il y a un bandeau qui passe au-dessus de votre tête pour répartir un petit peu plus le poids. Et c'est en ça que je dis qu'on est plus face à un prototype. En fait, Apple veut simplement savoir quel est le type d'attache que vous préférez. En livrant deux, ça va leur permettre d'avoir du data pour savoir finalement où est-ce qu'ils doivent faire évoluer le Vision Pro au niveau de la sangle. Leur sangle qui est jolie n'est pas la meilleure pour répartir le poids en fait. Alors, il parle maintenant du système effectivement d'alimentation. Alors, beaucoup de choses à dire sur le système d'alimentation. Apple en profite quand même pour remettre un système d'alimentation propriétaire. La manière dont l'alimentation s'attache au casque, ce n'est pas du MagSafe, c'est un système de loquet. Ce qu'on peut comprendre, parce que ce qu'il faut comprendre sur le Vision Pro, il n'y a pas de batterie interne. Si vous coupez le courant, le Vision Pro s'arrête. Il n'y a même pas une micro-batterie qui permettrait de changer la batterie en cours de route ou de mettre une nouvelle batterie en cours de route. Si vous coupez... En fait, c'est le bouton on-off du Vision Pro. C'est ce truc sur le côté. Si vous l'enlevez, le Vision Pro s'arrête. Et donc, ça, c'est relié à une batterie. Une batterie qui, entre guillemets, est obligatoire. Vous ne pouvez pas brancher directement le Vision Pro au secteur. Vous pouvez brancher au secteur, mais à travers la batterie, en fait. Et cette batterie, beaucoup ont rigolé hier. Là, ce qu'il est en train de montrer, c'est que c'est solidaire. Donc, on ne peut pas enlever le branchement de la batterie. Mais en fait, si. Et certains ont montré que c'était une espèce de grosse prise Lightning. Alors, en théorie, vous n'avez pas à l'ouvrir, ce truc. On peut le faire parce qu'il y a un truc d'éjection en cas de problème si vous cassez le fil, en fait. Mais il y a un truc propriétaire. Alors, beaucoup ont dit, ouais, l'Union européenne va retoquer le Vision Pro parce qu'il y a un gros Lightning. C'est pas un Lightning tel que vous le connaissez, hein, c'est un gros Lightning. En fait, non, parce que la batterie reste USB-C. C'est un connecteur de la batterie qui relie au casque, mais qui est solidarisé avec la batterie, qui utilise une espèce de fiche Lightning. Ouais. Donc là, MKBHD rentre plus dans l'expérience. Alors, ce qu'il dit globalement sur le contrôle, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans la VR, c'est que tous les casques VR jusqu'ici étaient livrés quand même avec un système, on va dire, de joystick, même si la détection des mains existe hein, depuis un certain temps dans la VR, elle n'est pas encore assez au point pour que même un Meta, avec ses ex-Oculus, se lance dans un contrôle entièrement à la main. Apple s'est livré sans aucune commande. Tout se contrôle à l'œil, au doigt et à l'œil. Voilà. Théoriquement, le swap avec n'importe quelle autre batterie. Alors, oui, tu peux brancher une batterie à la batterie, mais tu peux pas enlever la batterie et en brancher une autre parce que ton Vision Pro va se couper sur la manip. Comprenez le truc. Donc là, il parle effectivement de l'expérience. Et alors, ça, c'est un peu un point commun de toutes les vidéos. Dans les choses positives, ce que moi, j'ai retenu, c'est que tous les journalistes et youtubeurs s'accordent à dire que la vision d'Apple est incroyable. C'est-à-dire, ils y croient au spatial computing façon Apple. C'est très convaincant. Même si la version 1 du casque n'est pas convaincante, la vision d'Apple du spatial computing est convaincante. Même si pour l'instant, on ne peut pas faire énormément de choses, ce qu'on peut déjà y faire est convaincant, en fait. Avec un niveau de raffinement qui laisse loin derrière la concurrence. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les journalistes qui le disent. C'est-à-dire, ça marche, ça donne envie. Ce casque, cette V... Moi, je n'ai même pas envie de l'appeler la V1 du Vision Pro, c'est la V0. C'est vraiment le prototype. Limite cette expérience. Il y a trop de défauts encore dans cette V0 du casque. Mais par contre, la vision d'Apple pour les 10-20 ans à venir, qu'il existera un marché autour de l'ordinateur spatial, ils y croient, en fait. Mais on n'y est pas encore. En tout cas, avec le hardware d'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et ce qu'ils disent aussi, et ça c'est important à retenir, n'ayez pas une vision absolutiste des choses dans la tech. Il y aura un marché pour les ordinateurs spatiaux, qu'on appelait autrefois la VRAR ou la réalité mixte. On va continuer à l'appeler la réalité mixte. Il y aura un marché. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette. Ça sera pour certains moments et certains usages. Les gens absolutistes qui se disent oh, « mais on ne va jamais se trimballer toute la journée avec ça sur le nez ». Ben non, ce n'est pas le but non plus. C'est un problème dont on parle souvent. On a une vision absolutiste des choses dans la tech, genre tel objet va effacer tous les autres. Ce n'est pas le but. Alors, les retours de ceux qui l'ont acheté, on va les avoir, Matt Eleven, à partir d'aujourd'hui. Parce que les consommateurs américains qui ont réussi à l'avoir day one, livré day one, sont en train de les recevoir. Donc, je pense que vous aurez déjà des vidéos ce week-end de gens qui ne sont pas dans le sérail d'Apple. Après, que ça soit The Verge ou MKBHD, ils parlent sans problème des défauts. Hein. iJustin un peu moins. Mais surtout The Verge. The Verge est peut-être la vidéo... Tu ressors de leur vidéo. Moi, je la trouve extrêmement bien faite. Pour moi, la conclusion de The Verge, c'est Apple a raison, mais le Vision Pro est peut-être la fausse route pour la vision d'Apple, en fait. Et ça, c'est très intéressant comme réflexion. Apple a raison de se lancer là-dedans. Il y a un avenir pour ça. Par contre, leur premier objet tech qui permet d'arriver... Alors là juste sur la séquence de ping-pong, elle est intéressante. Par la séquence de ping-pong, Marquise prouve que les caméras qui enregistrent la réalité sont extrêmement réactives. Il est arrivé à jouer au ping-pong sans rater la balle. Bah, mine de rien, c'est un super test, parce qu'une balle de ping-pong, ça va relativement vite. S'il y avait la moindre latence entre ce qu'enregistrent les caméras autour du Vision Pro et la retranscription à votre œil, je crois que c'est 12 millisecondes, eh ben, ça vous permet de voir la balle et de ne pas la rater, en fait. Merci, un monde de jeu, pour ton raid. Un grand merci, un monde de jeu. Comment vous allez bien? Installez-vous. On est en train de parler du Vision Pro. On est en train de commenter la vidéo de MKBHD sur le Vision Pro. Et on en parle. Et on parle justement des premiers retours qu'on a eu effectivement des journalistes et des youtubeurs tech bien placés, on va dire, dans les petits papiers d'Apple qui l'ont eu et qui ont eu le droit de sortir leurs vidéos dès mardi. Eux, ils ont le Vision Pro depuis maintenant quasiment 2 semaines. On peut retourner les crêpes avec le Vision Pro. Bah, va voir la vidéo du Wall Street Journal, c'est très intéressant. Elle cuisine avec le Vision Pro. Et là, elle fait d'ailleurs, pour moi, une killer feature. Avec le Vision Pro, elle pose des timers sur sa casserole et sur sa poêle. Elle est en train de faire cuire un truc, donc elle met un timer de 10 minutes sur sa casserole. Elle met un timer de 10 minutes sur sa, de 6 minutes sur sa poêle. Et ça lui permet, dans sa cuisine, quand elle regarde vers la casserole et la poêle, d'avoir des timers dessus. Bah, ça, c'est typiquement le genre de micro-exemple en quoi l'AR peut être super utile pour cuisiner. Moi, j'en rêve de ça, de pouvoir mettre mes timers directement sur les casseroles concernées. Oui, l'humanité vivait très bien sans. On est d'accord. Mais vous savez, vous pouvez cuisiner avec un sablier aussi, hein, pour pas cramer vos trucs. Mais est-ce que vous avez déjà cuisiné avec un sablier ? C'est un peu plus laborieux. Alors là, il parle du clavier virtuel. C'est hyper intéressant, le clavier virtuel, parce que ça explique pas mal de choses. Je mets juste en pause. En fait, quand vous voulez saisir du texte dans cet ordinateur spatial, vous avez 3 méthodes, globalement, pour saisir du texte. Soit vous faites apparaître... Je vais mimer. Soit vous faites apparaître un clavier virtuel devant vous. Et comme le Vision Pro repère vos doigts, vous allez pouvoir faire de la saisie. Imaginez, là, j'ai un clavier virtuel devant moi. Comme il repère avec exactitude la position des doigts, vous pouvez. Mais ce qu'ils disent tous, c'est que du coup, on saisit comme un boomer écrit sur un smartphone, avec 2 doigts, quoi. un doigt. Et que c'est pas pratique. Parce que si vous vous mettez à faire ça sur votre clavier virtuel, là, il n'y arrive pas. Il y a trop de doigts qui se croisent et tout. Ça marche pas. OK ? Donc, ils disent le clavier virtuel avec les doigts, c'est un peu, si vous l'avez déjà fait, comme essayer d'écrire du texte avec une télécommande d'Apple TV. C'est faisable, mais c'est laborieux. Par contre, vu qu'il a une captation très rapide et très exacte de ce que vous regardez, il y a une autre méthode de saisie sur ce clavier virtuel. Il suffit de regarder la touche que vous voulez appuyer et de faire ça. Et ce que dit MKBHD et qui est hyper intéressant, il dit la saisie est super rapide quand on fait ça. Genre, je regarde les touches. Ah, peut-être qu'on va voir des gens faire comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est hyper fatigant pour les yeux. Est-ce que c'est plus fatigant pour les yeux de chercher, pour ceux, quand vous faites de la saisie, alors les gens qui savent vraiment taper n'ont pas à regarder leur clavier quand ils font de la saisie. On est d'accord. Par contre, moi, quand je fais de la saisie, je regarde quand même les touches. Donc, est-ce que ça va être plus fatigant pour mes yeux que de regarder les touches du clavier ? J'en sais rien. Mais c'est intéressant. Il dit, il a été surpris lui-même par la vitesse de la saisie en faisant comme ça. Après, il y a une dernière méthode de saisie de texte qui est la plus évidente. Vous prenez un clavier, vous le posez devant vous. En fait, ça s'appaire tout seul avec le Vision Pro, un clavier Bluetooth, et vous utilisez un vrai clavier puisque vous le voyez à travers le Vision Pro. Il n'y a pas besoin d'un clavier virtuel, en fait. Donc, ça, c'est intéressant. Et bien sûr, après, vous avez la dictée. Vous regardez le bouton Siri, déclenche le micro et vous pouvez dicter. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'ils disent que la méthode de saisie, bim, 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 ce qu'ils disent, ça, c'est quand même extrêmement précis. Alors, par contre, ce que dit The Verge est aussi très intéressant, c'est que le Vision Pro est incroyable pour repérer ce que vous êtes en train de regarder. Ça, il ne se trompe pas. Vous regardez une icône, vous regardez un texte, vous regardez même un petit truc, il sait exactement. Donc, en fait, vos yeux remplacent la souris. Voilà, la souris. Et ça remplace le clic. C'est une manière simple d'expliquer les choses. Vos yeux, c'est la souris. Et ça, c'est le clic. Mais il dit, du coup, il y a une chose qui ne va pas. Et c'est un vrai problème. Quand vous utilisez votre souris, vous ne regardez pas votre souris. Vous regardez le curseur. Donc, on n'est pas obligé de regarder précisément là où on clique. Surtout que, par exemple, quand vous jouez aux jeux vidéo, vous regardez parfois pas là exactement où vous cliquez. Par contre, avec le Vision Pro, il faudra regarder exactement là où vous cliquez. De même, il faudra quand même faire attention avec ses mains. Si vous avez les mains sous la table, le Vision Pro ne les voit plus. Donc, vous aurez beau faire ça, si vous faites ça sous la table, il ne le repère pas. Donc, c'est pas... Alors, attention, vous pouvez aussi utiliser une souris hein, avec le Vision Pro. Si vous posez une souris sur la table, elle s'appaire avec le Vision Pro. Ben là, vous avez... ça ne va plus être un tracking à l'œil. Vous allez avoir un curseur comme si vous vous baladiez avec un ordinateur. Alors ça, c'est un point commun. Ils disent tous que c'est un peu... C'est une nouvelle habitude. Que de, ça demande un... Ça fait une friction mentale que de faire attention à ce qu'on regarde dans l'interface. Nous qui avons l'habitude, en travaillant rapidement, de parfois pas regarder exactement ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ça sera quelque chose à réapprendre. La question n'est pas que c'est hyper intuitif ou pas, en fait, Charlet. C'est plutôt qu'on va devoir changer nos habitudes et que ça va peut-être demander un degré de concentration sur ce qu'on fait qui peut être une friction mentale qui peut fatiguer. À voir. On continue un peu dans ce qu'il dit. Donc, là, justement, il est en train d'expliquer comment on navigue. Je ne sais pas s'il a déjà expliqué, mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le Vision Pro est basé sur iPadOS. Donc, une manière très simple d'expliquer le Vision Pro, c'est qu'on a un iPad collé sur le visage. Donc, je viens de débrancher mon iPad, c'est normal, tout va bien. En fait, le Vision Pro, je l'ai déjà. Je viens de coller mon iPad à mon visage. Et c'est incroyable. En exclusivité, avant même, je crois que Numérama, ils reçoivent leur Vision Pro dans quelques heures. Eh bien, moi, je l'ai déjà. Voilà, je vais le sortir pour que ça soit plus clair. Est-ce que j'ai un moyen de l'attacher ? Non. Voilà, j'ai déjà mon Vision Pro. Pas la peine de dépenser... 3 500 $, j'ai déjà mon Vision Pro, tout va bien. Avec du gaffeur. Voilà, le Vision Pro du pauvre. Enfin, pauvre, c'est quand même un iPad Pro, faut pas déconner. Hein. Pour l'instant, vous pouvez pas le précommander en France, hein. C'est exclusivement aux États-Unis. Alors, il y a des journalistes et des influenceurs français qui l'ont précommandé. C'est un gros risque, hein, parce que vous avez même pas la garantie. La garantie Apple ne sortira pas des États-Unis. Donc, je comprends que Numérama s'en est procuré un et tout, et ils vont faire leur test. Nous, par exemple, on se l'est pas procuré aux États-Unis. Beaucoup trop risqué. On fera le test quand il sera disponible en France, non ? Ah, la version tablette, tu peux le faire tout de suite. Euh, Tu te fais mal, Jérôme. Dessine tes yeux sur le dos. Je me mets des stickers. Attendez, je rebranche l'iPad pour qu'on reprenne la vidéo. Ouais, Romain Lanéry en a acheté un, il est aux États-Unis. Donc, il pouvait. Mais je sais qu'il y a Mister Perrier et il y a Wallan aussi qui en a commandé un. C'est possible, mais il y a beaucoup de limitations même pour l'utiliser quand vous êtes en France. C'est-à-dire, il faut aussi que vous soyez logué sur un compte Apple US et tout. Si vous avez des moi, un des problèmes tout con en dehors de l'assurance, de la garantie, moi, j'ai besoin j'aurais besoin des lentilles adaptées à ma vue pour que ça marche. Et ça ne marcherait pas avec une ordonnance ophtalmo française. Donc, hors de question que je commande aux États-Unis sans avoir les lentilles ophtalmo, quoi. Donc, faut le vouloir, faut en avoir les moyens aussi. Hein, tous les enfin, moi, je vous le dis franchement, dépenser 4000 euros pour un produit, pour en faire le test, c'est un engagement pas facile pour la chaîne hein, en termes de trésorerie. Non, c'est même pas une question myopie, pas polyglotte, c'est qu'ils ne reconnaîtront pas l'ordonnance d'un ophtalmo français pour faire les verres. Mais par exemple, Numérama et 01net, enfin les titres de presse français qui en ont commandé un, ils vont l'utiliser avec un compte américain, etc. quoi. Tester un truc que le public ne peut pas acheter, ce concept. Alors en fait, Alkama, oui et non. Parce que c'est quand même intéressant pour analyser ce que Apple, où est-ce que Apple veut en venir avec cet ordinateur spatial. Il faut aller au-delà de l'objet, du prototype qu'ils ont mis sur le marché aujourd'hui. Parce que l'objet en lui-même, personne ne va dépenser cette somme-là, à part des développeurs, des influenceurs et quelques richissimes early adopteurs en mal de FOMO. Clairement, ce n'est pas un produit qu'on va acheter. Jamais je vous conseillerais d'acheter ce truc-là. Ça ne vaut pas le coup. Mais le concept qu'il y a derrière, donc les déclinaisons qu'on va voir dans les années à venir, c'est intéressant d'un point de vue journalistique, d'information, d'analyser la vision d'Apple. Oubliez le Vision Pro. Essayez d'analyser la vision d'Apple. C'est ça qui est important. Ce produit peut être un échec, ça ne veut pas dire que Apple se plante. Je vais être très clair là-dessus. Peut-être d'ailleurs que Apple, même s'ils ont besoin de 3-4 ans de plus, est en train de développer en parallèle le Vision Pro qui n'aura pas besoin, qui sera transparent, qui sera plus des lunettes qu'un casque de VR. Ce qu'il faut bien comprendre sur le Vision Pro, c'est qu'aujourd'hui, vous verrez, vous voyez le vrai monde autour de vous, mais vous le voyez à travers des caméras. Donc, quelque part, c'est un surréalisme. Le but final d'Apple, c'est probablement, si la technologie le permet un jour, que votre vision du monde environnement soit naturelle à travers du verre et qu'ils aient une technologie qui permette de surimprimer sans transparence, avec un réglage de l'opacité des objets dans votre champ de vision. S'ils pouvaient le faire sur ça, il l'aurait déjà fait, Apple. Mais la technologie n'existe pas encore. Donc, il ne faut pas mesurer ce que Apple veut faire en regardant ce Vision Pro, qui est un premier proto de ce qu'on peut faire de mieux en techno pour s'approcher de ce qu'on veut faire en technologie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si Apple a mis autant d'argent et autant d'efforts à essayer de faire apparaître des yeux devant. Son truc, c'est qu'il veut que vous compreniez que leur but, c'est pas de faire un truc qui ferme, mais un truc qui permet de voir le monde et d'y ajouter des informations. Et que votre spectre visuel devienne un ordinateur. Oui, j'ai un Quest 2. J'ai pas pris le 3, mais j'ai un Quest 2, ouais. Donc, en fait, ce prototype est là pour faire comprendre la vision d'Apple. Mais je vous le garantis, et ça en est même, moi j'en suis certain, on en reparlera tout à l'heure, mais le Vision Pro n'est que le début d'une gamme de produits Vision. Et peut-être que Apple va sortir un produit extrêmement simple dans 2-3 ans, qui ressemblera beaucoup plus à des lunettes, qui offrira pas autant de fonctions, hein, qui affiche. Moi, je verrais bien, je disais ça hier dans le live contributeur, je verrais bien Apple sortir une paire de lunettes qui serait un peu l'Apple Watch du Vision. Un Vision Air qui ne donnerait que des notifications. Les branches seraient interchangeables. On aurait des petites notifs transparentes qui pourraient apparaître. Des petites flèches pour se diriger dans la rue. Quand tu cherches un truc sur Google Maps, la petite flèche apparaît au-dessus de ton regard. Légère, un petit peu de batterie. Ils appellent ça le Vision Air. Tu n'auras qu'une petite partie des fonctionnalités du Vision Pro. Mais ça sera déjà un banger. Moi, j'achète tout de suite. Des Google Glass, façon Apple, effectivement. Vision Air, pas avec Google Maps, hein. Apple Plan est devenu bon, hein, maintenant. Yo, moi, en fait, même, MKBHD, je vais plus vite que toi, donc je t'interromps. Pour moi, on verra. Prenons des pronostics. Pour moi, on va dire dans 2-3 ans, la gamme Vision, il y aura un Vision Pro qui sera à sa V1 ou sa V3, qui coûtera aussi 3 500 $ et qui fera tout. La version extrême pro d'Apple du Vision. Le truc avec des yeux qui seront un peu mieux réussis, un persona mieux réussi. On reparlera du persona tout à l'heure parce que c'est la cringe zone du Vision Pro. Un affichage qui sera plus 4K mais carrément 8K. Un champ de vision élargi, un truc plus léger, des meilleurs matériaux. Probablement un système de batterie qui sera moins peut-être collé derrière. Voilà, ils auront re-réfléchi le truc et qui coûtera 3 500 $. J'en mets ma main coupée. OK? Ça sera le Vision Pro. On aura ensuite le Vision d'Apple. Le Vision, ça sera un produit intermédiaire. Ça sera le produit mass market qui sera entre 1 500 et 2 000 €, qui n'aura pas des yeux devant. Il y aura juste, ou alors ça sera des yeux Memoji. Ils enlèveront en fait non pas les caméras à l'intérieur qui permettent de traquer le regard, parce que ça, ils vont garder. Mais les caméras, tout le système consistant à essayer de reproduire un alter ego qui ressemble plus ou moins à un humain pour vos visios et pour les yeux devant. Il y aura un système beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, parce que ça permettra d'enlever toute la machinerie qu'il faut pour la retranscription du regard. En gros, un Vision d'Apple qui assumera son côté expérience solo. Et qui permettra de regarder les films sur des grands écrans, d'afficher un grand écran quand vous ouvrez votre Mac ou plusieurs écrans, qui permettra de faire tout le reste du Vision, sauf toute la partie persona, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'il sera en 4K, alors que le Vision Pro, lui, sera en 8K. Et on aura les Vision Air, qui seront des lunettes. Avec des branches interchangeables, fashion. Il y aura probablement des branches Hermès pour leur donner du style. Mais cette partie-là, elle sera uniforme, comme une Apple Watch. Tout le monde aura la même forme. Et qui permettra d'afficher, comme une Apple Watch, des petites notifications, des petites informations en transparence dans la lunette. Je suis pas d'accord en off-web. Le persona. Alors, venons-en peut-être au persona, parce que est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il montre la visioconf en persona? Attendez, on va regarder ça. Voilà, oui. Alors, le persona, pour que vous compreniez. Le persona, en fait, votre Vision Pro va vous scanner, en fait. Là, il montre justement, vous mettez le Vision Pro devant vous, vous montrez vos mains, voilà. Et ensuite, est-ce qu'il le montre ça ? Je crois que oui. Voilà, il vous montre le persona, enfin le système vous demande d'enlever le Vision Pro et de le mettre devant vous. Et le Vision Pro va vous demander, un peu comme la reconnaissance faciale, de faire certains mouvements devant ces caméras et elle va scanner votre visage. OK ? Et notamment vos yeux. Elle va scanner votre couleur de peau, vos cheveux, votre visage. Et les mouvements, elle va scanner votre sourire, elle va scanner le mouvement de vos sourcils, etc. Donc là, il montre le process. Allez, vas-y, avance. Là, il montre, on doit sourire, on doit montrer ses dents. Voilà. Non, tu scannes sans les lunettes, mais tu pourras rajouter tes lunettes sur ton persona. Bonne question, Goué. Donc ensuite, il crée un persona qui est un alter ego en 3D de vous. Et là, ça dérape. Là, on le voit tout de suite, ça dérape. Alors, techniquement, c'est impressionnant parce que les scans sont relativement simples. Et ce qui est impressionnant, là, on le voit un peu, ça suit très très bien ce que vous faites avec votre visage. Ça tire la langue, ça sourit, vos micro-mouvements sont pas trop mal retranscrits. Mais là, on est dans ce qu'on appelle l'uncanny valley. Ça ne ressemble pas assez à un visage humain. Donc, votre cringe-metteur monte à 100%. On dirait une version ratée d'un humain. On a l'impression d'être dans les jeux vidéo des années 2000. Alors, ça a été pire chez Meta. Meta, quand ils ont montré leurs premiers alter ego virtuels, on a l'impression d'être dans les jeux vidéo des années 90. Mais le problème, c'est qu'à vouloir imiter... En fait, le visage humain, ça fait des milliers d'années qu'on regarde d'autres humains. Le visage humain, c'est extrêmement complexe à rendre un visage humain convaincant. Même aujourd'hui, la 3D la plus convaincante du monde, il y a toujours... Moi, je regardais Indiana Jones, là, le dernier. Ouais, il y a une longue séquence avec un Harrison Ford en 3D. Il y a des séquences, ça marche. Il y en a d'autres, on n'y est pas encore. C'est pas une question d'être trop difficile ou pas, Network. C'est ce qu'il dit d'ailleurs très bien, MKBHD. C'est techniquement impressionnant. Mais dès que tu es en conversation avec d'autres personnes et des personas, en fait, tout le monde éclate de rire. Regardez. Là, justement, il va contacter d'autres journalistes avec leur persona. Les cheveux ne bougent pas. Les mains, c'est un petit peu bizarre. Voilà, en gros, vous êtes transformé en personnage de jeu vidéo. Attendez, est-ce qu'on voit son appel téléphonique avec... Voilà. Je suis d'accord, d'un point de vue photoréalisme, c'est pas mal, mais les yeux sont morts, les cheveux ne bougent pas, les attitudes sont rigides. On pourrait se dire pourquoi finalement Apple ne s'est pas contenté. Enfin, moi, c'est pour ça que je vous parlais de la version Vision, pas de la version Vision Pro. Moi, Apple me dit, bon, Jérôme, je te le vends quand même beaucoup moins cher, 1 500 € le Vision. Tu prends pas le Vision Pro. Par contre, quand tu fais une visioconférence, il faut l'enlever et tu utilises ton Mac ou ton iPad ou ton iPhone pour faire tes visios et il n'y a pas tes yeux dans la visière de devant. C'est le trade-off. C'est beaucoup moins cher, mais on ne te met pas tout ce système-là. Par contre, il sera plus léger. Et à la limite, si tu veux vraiment garder ton Vision pendant une visio, bah, tu mets ton Memoji. Bah, moi, honnêtement, ça me suffit, hein. Je vais être honnête, ça me suffit. Donc, c'est là où on peut se dire, est-ce que Apple... Après, c'est toujours intéressant d'essayer. Mais est-ce que ce persona, ils vont y arriver dans 3-4 ans? Pour l'instant, ils n'y sont pas. Et d'ailleurs, Apple le dit, c'est de la bêta. Hein. C'est bêta, le persona. C'est pas ça qu'on veut faire. Attention, Apple le dit bien. Ces personnages que vous voyez, ce n'est pas ce que veut Apple. S'ils les mettent à disposition aujourd'hui, c'est un peu pour dire, voilà ce à quoi on arrive aujourd'hui. Mais attention, c'est pas ce à quoi on veut arriver. Est-ce qu'ils peuvent y arriver? Alors, j'avais une réflexion ce matin. Il y a aujourd'hui des logiciels d'intelligence artificielle qui, à partir de photos de vous, arrivent à faire des alter-ego beaucoup plus convaincants que ces personas. Je pense que la solution est là. En fait, le problème, c'est que un Vision Pro... En fait, il manque de l'intelligence artificielle. C'est ce que j'ai dit dans mon avant-dernière vidéo, ou avant-avant-dernière. Apple fait une grosse erreur avec le Vision Pro. C'est qu'ils ont sous-estimé à quel point l'intelligence artificielle générative sera importante pour le Vision Pro. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une IA générative. Et quand vous voyez les visages animés qui sont capables de générer les IA génératives, c'est incroyable. Et si, au lieu que ça soit un espèce de scan photo, parce qu'en fait, on le sent, c'est un mapping de la photo de vous sur un squelette 3D approximatif, quoi, le persona aujourd'hui. Si on arrive, quitte à avoir un process de scan plus compliqué, une IA qui va mouliner derrière et se créer un alter ego virtuel beaucoup plus convaincant et l'uploader dans ton Vision Pro, bah, tout irait bien, même au niveau des yeux. Ah, mais c'est de l'animation en temps réel. Allez voir... merde, c'est quoi? Il y a un mec qui a fait une vidéo là-dessus. On arrive aujourd'hui à se faire un alter ego en donnant une centaine de photos à une IA. Tu arrives à faire un alter ego animé et créer des vidéos avec ta voix, qui est hallucinant. J'essaie de retrouver le nom de l'appli qui permet de faire ça. Attendez, je l'ai peut-être mis dans mes onglets. Attendez, je regarde sur mon Mac. Bah, comment ça s'appelle? Je cherche. Est-ce que je l'ai mis dans mes signets? Ah merde, non. Bon, je chercherai, on en reparlera. De toute façon, je vais probablement le tester. Attendez, je vais essayer quand même de vous retrouver un truc, mais sans garantie d'y arriver. Parce que j'ai regardé la vidéo il y a quand même un certain temps. Yep, vidéo, attendez, mon historique. Non, je la retrouve pas. En plus, j'ai même pas regardé avec ce compte. Bon, on va perdre trop de temps, là. Donc, je pense que les progrès sont tout à fait possibles pour les personas, mais Apple est trop en retard sur l'IA. Je vous garantis, l'IA, elle y est presque à faire des avatars en 3D de vous hyper convaincants. Mais pour ça, Apple va devoir mettre les bouchées doubles sur l'IA générative. Je sais que tout le monde me dit, mais si, Apple fait déjà de l'IA. Oui, je sais. Mais de l'IA générative... Ils ont du retard. Et pour l'instant, personne n'a réussi à me prouver le contraire. Oui, je sais qu'ils ont sorti Ferrette. Oui, je sais que c'est hyper intéressant ce qu'ils font sur le génératif, dans les groupes de développeurs et tout. Mais pour l'instant, ils n'ont rien sorti. Alors, je sais, tout le monde me dit, oui, mais Apple, ils peaufinent, ils sortent après. Ils ne pourront pas prendre autant de retard avec l'IA qu'ils peuvent prendre du retard, je ne sais pas, avec le téléobjectif, par exemple. Bon, on va dire, j'ai un peu terminé. Je vais peut-être prendre vos questions parce que je vois qu'il y en a plein qui parlent. Sur le Vision Pro, est-ce qu'il est water ou transpi-proof ? Non, a priori, non. Un truc important, c'est que Apple le précise bien, le Vision Pro n'est pas du tout fait pour vous balader. C'est un objet fait pour être utilisé assis à votre bureau ou dans votre canapé, éventuellement bouger un peu chez vous, mais Apple le dit très clairement, ne l'amenez pas dehors. Ils n'ont aucun problème du côté des IA génératives, Apple Ferret. Oui, non, mais je sais hein, tout ce que tu vas me dire, Argonaut, je suis très prêt. Mais aujourd'hui, Google et Samsung sortent leur nouvelle génération de smartphones qui embarquent des IA génératives et conversationnelles qui marchent et qui sont utiles. Apple n'a pas prévu de les mettre avant 2025, dans 2 ans. 2025-2026. Moi, je le dis dans une de mes vidéos qui va sortir, et je prends l'engagement auprès de vous, parce que aujourd'hui, l'IA générative et conversationnelle commence à prendre tellement de place dans ma vie, dans mon travail, que je serai obligé de réfléchir à changer d'écosystème si Apple prend du retard à foutre cette putain d'IA générative et conversationnelle dans les iPhones. Google a sorti Gemini Pro sur Bard qui bat les premières versions de GPT-4. Ouais, la course est très rapide hein, sur le génératif. Mais ta question sur la transpiration est très intéressante parce que, comme le dit quelqu'un d'autre, c'est un des problèmes que j'ai avec le Quest. Le Quest 2, moi, de temps en temps, j'essaye de faire des trucs avec... Bon, il prend un peu la poussière, mais voilà. En été, c'est impossible. Tu transpires en 10 minutes là-dessous. Hein. Tim Cook a dit cette nuit que l'IA arriverait courant cette année. Mais voyez, même le fait que Tim Cook soit obligé de dire « Calmez-vous, calmez-vous, l'IA, elle arrive cette année », ils font jamais ça, Apple. Apple, c'est toujours sérénité. Nous, on sortira le produit dans 4 ans quand on sera prêt. Le fait même que Google dise « Non, vous inquiétez pas, notre IA arrive », c'est pour rassurer les actionnaires. C'est ça que certains d'entre vous ne comprennent pas. Vous avez une confiance aveugle entre Apple. Oui, non, mais Apple, ils doivent avoir une IA, ça va être les meilleurs et tout. J'en doute pas, mais ils ne peuvent pas se permettre d'avoir du retard. Cette fois-ci, sur cette techno, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre que leur IA soit parfaite. Ils ne pourront pas. Personne ne vous croit quand tu dis ça. Ah, alors le problème, c'est qu'il faut que tu me redises ce que j'ai dit, parce que je dis beaucoup de choses. Moi, je vous ai souvent fait la démo, hein, mais depuis que j'ai Copilot sur le bouton action de mon iPhone, je n'arrête pas de l'utiliser, quoi. Les IA centralisées comme Microsoft ChatGPT, Apple, c'est des grosses dopes comparativement à ce qui se prépare avec les data centralisation blockchain. Oui, oui, non, mais d'accord. Mais moi, je pense à l'utilisateur final. L'utilisateur final, tu peux lui parler de modèles de langage light, de copro dédiés, de performance et tout. Pff, lui, ce qu'il veut, c'est le résultat. Et un truc qui va lui permettre qui va être vraiment utile dans son quotidien, c'est ça qui est important. Ah, l'IA va être très dangereuse aussi. Attention, Parisienne, c'est pas parce que je dis j'utilise de plus en plus l'IA que je sous-estime les dangers liés à l'IA. C'est le contenu de mon message. Philrine, il faut comprendre que moi, je chope les messages à la volée. si vous ne mettez pas des phrases dans le contexte de ce que vous avez dit avant, en fait, je suis beaucoup plus con qu'une IA. Je n'ai aucun texte, je n'ai aucun contexte à vos prompts. Donc, remettez vos phrases en concept, en perspective, sinon j'y comprends rien. C'est ça qui m'inquiète, c'est que ça nous nuise. On ne va pas refaire les grands débats sur la technologie, mais toute technologie a son lot de nuisances. J'évoque très souvent, et vous en avez marre, mais ça reste très important de comprendre ça, la première des technologies, la domestication du feu, on peut se cramer hein, avec le feu, quoi. Voilà. On peut détruire le monde avec le feu. Mais personne ne remet en cause que la domestication du feu est quand même pas mal utile, quoi. Il disait qu'il croit pas que tu quittes Apple. Je vais te... Là je peux pas être plus honnête que vous. Que ça. Moi qui prends énormément de notes et tout, l'IA... dans sa capacité à réduire les textes, à me proposer des trucs, m'est devenue tellement utile que si sur mon iPhone ou mon iPad, j'arrive pas à mettre assez d'IA, parce qu'aujourd'hui, on y arrive, hein, je peux mettre Bard sur mon iPad, je peux mettre Copilot sur mon iPhone, mais c'est pas assez intégré. C'est une surcouche, en fait. Si je vois que sur Android, c'est plus fluide, c'est mieux intégré, ce qu'on commence à voir avec les Samsung, ça ne sera pas une migration facile et je n'ai pas dit que j'allais la faire. Je vais voir comment les choses vont évoluer. Mais c'est quelque chose qui pourrait me faire migrer, ouais. Oui, désolé pour ceux qui étaient là hier, on est en train de réexpliquer des choses dont on a parlé hier. On continue sur le Vision Pro, les IA, de toute façon, vous inquiétez pas, on va en parler pendant les 10 ans à venir, des IA, au moins. Et des drames que vont générer l'IA et que ça génère déjà. Hein. Attention, je ne suis pas naïf, je ne suis pas optimiste hein, sur plein de points sur l'IA. Ce que je dis juste, et c'est le plus important peut-être, l'IA est inévitable. On ne peut pas l'arrêter. On ne va pas dire « Stop, on arrête tout, on ne veut pas d'IA. » C'est trop tard. Il ne fallait pas ouvrir la boîte. C'est peut-être la boîte de Pandore, mais elle est ouverte. Donc maintenant, il faut gérer. Inéductable, inévitable, sémantique que cela. Donc oui, inéductable. Ok, ça va, l'Académie française. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le progrès est une énergie qu'on ne peut pas empêcher, bloquer, arrêter. On ne peut que la canaliser, la rendre utile ou dangereuse. La technologie, dans son ensemble, est un outil. Le feu est un outil. Un marteau est un outil. Hein. Vous pouvez fracasser le crâne de quelqu'un avec un marteau, comme vous pouvez construire une maison. Voilà. Ah, on va peut-être parler du sponsor. Je prends peut-être une ou deux dernières questions sur le Vision Pro, ceux qui ont des questions. Après, moi, je ne l'ai pas eu en main, mais j'ai regardé toutes les vidéos, effectivement, de tests du Vision Pro, déjà. Et je réfléchis beaucoup au sujet. Parce que, je partage beaucoup de leurs conclusions. Ce que Apple veut faire avec l'ordinateur spatial m'intéresse énormément. Et j'y crois. Par contre, je ne crois pas au Vision Pro V0 qui viennent de sortir. Le produit est beaucoup trop limité, c'est un prototype et il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Donc, nous, on l'achètera peut-être pour en parler sur la chaîne, Mais alors déjà, je peux vous le dire, même sans l'avoir testé, n'achetez pas ce produit. Vous m'avez bien entendu, je sais que vous en avez envie, juste pour vous éclater et frimer avec les potes sur 2-3 soirées. Mais ce truc a un potentiel de terminer sur l'étagère très rapide et vous allez quand même poser 4000 euros sur l'étagère. Donc ne l'achetez pas. Si vous n'êtes pas un YouTuber ou un développeur, ne l'achetez pas. Vous, voilà, je ne vais pas vous dire. Attendez la V3 du Vision ou la gamme Vision avant de vous mettre à acheter ces trucs-là. Mais ça ne vous empêche pas de vous intéresser à ce que Apple est en train de faire. Selon toi, ils n'auraient pas dû sortir le produit si. Si, parce qu'ils ont besoin. En fait, il y a un truc, c'est un peu comme l'Apple Watch 0. Il y a un moment, si tu ne les mets pas dans les mains des développeurs et des premiers utilisateurs, certes riches, fortunés et technophiles, tu ne peux pas aller plus loin. Tu as besoin de feedback, tu as besoin de data, tu as besoin de savoir comment les gens l'utilisent, tu as besoin de savoir comment les développeurs, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et l'Apple Watch est l'exemple type de ça. Si vous regardez les fonctionnalités qu'il y avait sur les Apple Watch à la sortie, ce que Apple avait anticipé de comment on les utilisera et comment on les utilise aujourd'hui, il y a un océan. Oui, c'est un proof of concept quelque part. Attendez la vidéo de Noël 2026, conseil d'achat casque Vision. Je dirais peut-être 2027-2028. Hein. Je ne sais pas si on sera, si on y sera déjà hein, à la gamme Vision en 2026. Ça me paraît. Moi, je pense qu'il va falloir. Là-dessus, je ne suis pas optimiste. Je pense qu'il va falloir. La V3 n'arrivera pas avant 3-4 ans. Et il va falloir au minima 6 ans avant que le produit devienne mass market. Je ne suis pas sûr pour le coup que Apple puisse aller vite là-dessus. Il y a énormément de micro-réglages à faire sur ces produits. 6 ans, c'est une éternité, ouais, je suis d'accord. Est-ce que la V3 du Vision Pro arrivera avant la sortie de Star Citizen? Fort peu probable. Bon, les gars, il est 9h48. Et si on parlait un petit peu de notre sponsor, j'ai envie de dire, notre petit spompon, notre petit sorceur, HelloFresh. Alors, parlons un petit peu d'HelloFresh. Je l'ai vu déjà, cette vidéo. Elle est bien, ouais, d'Enrico Tartarotti. The Vision Pro to Fail and It's Genius. Elle est très bien, cette vidéo, ouais. Et je partage pas mal son avis sur certains trucs, ouais. Pas tout. Pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais c'est ça qui est bien. Je vais vous parler un petit peu d'HelloFresh. HelloFresh, c'est quoi? Bah, HelloFresh, en fait, c'est le leader mondial des kits repas. Qu'est-ce que c'est qu'un kit repas? En fait, un kit repas, c'est que vous vous abonnez chez HelloFresh. Vous choisissez des recettes. Le minimum, c'est 2 par semaine. Je vous expliquerai si, tout à l'heure comment on commandait que 2. Parce qu'en fait, la limite, vous avez l'impression que c'est 3, mais c'est 2. Vous commandez 2 recettes par semaine et ils vont vous livrer les ingrédients pour préparer cette recette. Donc, ça va être livré. C'est des circuits courts hein, de livraison, puisque là, on est dans l'actualité. Origine France en priorité pour les produits frais, en direct des producteurs. C'est sans engagement. Alors, c'est un abonnement, mais c'est vrai qu'il est très flexible. Je vous expliquerai comment, effectivement, ajouter de la flexibilité à votre abonnement HelloFresh. Et le but, en fait, à qui ça s'adresse? Moi, je dis souvent, c'est pour les gens qui mangent des plats surgelés. Alors, certains d'entre vous, vous mangez jamais de plats surgelés. Tant mieux pour vous. Vous êtes des gens, vous achetez des produits frais au marché. Ah oui, j'affiche communication commerciale, pardon. Vous achetez des produits frais au marché, vous cuisinez. Et je ne peux être que ravi pour vous, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et il y a des gens, du fait de leur vie, du timing qu'ils ont dans leur vent, du temps qu'ils ont, ils ne peuvent pas acheter des ingrédients pour cuisiner. Et du coup, ils vont se rabattre sur des plats industriels préfaits. Et je trouve que pour ces gens-là qui en ont marre de manger, j'ai rien contre Picard, mais au bout d'un moment, tout Picard a le même goût. J'ai rien contre manger de temps en temps un truc en boîte ou un plat préparé. Mais le problème, c'est que ces plats contiennent énormément de produits de conservation, etc. Et si vous mangez tout le temps ça, c'est quand même pas super sain. Et j'ajouterais une chose. Pour ceux qui essayent de faire attention à leur poids, à ce qu'ils mangent, cuisiner, c'est quelque chose d'important. Je vais avoir une phrase provoque, mais je pense qu'il est plus important de cuisiner que de faire un régime. Parce que quand vous cuisinez, vous êtes conscient des ingrédients que vous mettez dans ce qui va aller dans votre bouche, le plat. Et surtout, un truc que vous diront toutes les personnes qui cuisinent, quand tu cuisines, tu manges moins. Tu manges mieux et tu manges moins. Parce que d'abord, tu goûtes pendant que tu cuisines. Et toute personne qui cuisine un repas, généralement, elle a un peu moins faim quand elle arrive à table. Et je vous conseille de cuisiner. Alors, vous allez me dire, c'est pas à la portée de tout le monde. J'ai pas la patience. Je suis pas doué. Et je vais pas vous mentir. Il y a des gens, ils arriveront jamais à cuisiner. Il y a des gens qui font un petit peu de patience en cuisine. Il faut être un petit peu aventureux. Mais là, par exemple, HelloFresh lève pas mal de freins sur la difficulté de la cuisine. Parce que les recettes, les niveaux de difficulté sont indiqués. Il y a des photos, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a des photos qui vous montrent comment il faut faire. Et c'est une bonne pédagogie pour apprendre à cuisiner. L'avantage aussi de se faire livrer les ingrédients, c'est que vous n'avez pas... Ce qui est compliqué en cuisine, c'est d'anticiper les ingrédients à acheter pour ne pas faire de gâchis. Vous voulez faire un plat le week-end, il faut réfléchir, alors, quelles sont les quantités, les trucs comme ça. Mais vous savez qu'on ne peut pas tout acheter au poids en France. Donc, on se retrouve après avec des produits en surplus qu'on n'a pas mis dans sa recette. Et puis, après, on oublie de les utiliser pendant la semaine et on les jette à la poubelle. Bref, du gâchis. L'avantage, c'est que HelloFresh vous livre exactement ce qu'il vous faut pour faire telle ou telle recette. Voilà, j'ai un peu expliqué le concept. Je voulais, avant de prendre vos questions sur HelloFresh, vous montrer deux, trois petites vidéos d'HelloFresh, telles que moi j'ai utilisées. Bon, d'abord, vous voyez que je sais de quoi je parle. Alors, attendez, on va voir. OK, voilà ce que vous recevez. Alors là, c'est trois recettes HelloFresh que je reçois. Donc, vous le recevez comme ça, c'est livré par ChronoFresh. Ils essayent de diminuer au maximum les emballages, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des normes sanitaires qui les obligent à emballer certains trucs. Alors cette vidéo date un peu. Aujourd'hui, il y a des nouvelles règles dans les normes sanitaires. Il y a des légumes qu'on n'est plus obligé de mettre dans des emballages. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour mettre le moins d'emballages possible. Donc ça, je sais que c'est souvent un frein pour certains, et c'est légitime. Alors là, je vous montre un petit peu les recettes, comment on les reçoit. Les recettes, on les reçoit sur un papier recyclé cartonné, donc elles durent bien dans le temps, vous pourrez les garder après, même si vous passez pas chez HelloFresh. Bon, là, je vous montre qu'il y a des prospectus aussi. Donc, vous recevez la recette qui est illustrée par des photos, étape par étape. Donc, ça vous permet de vous y retrouver. Donc, voilà, là, j'ai déballé les ingrédients. Alors, tout ce qui doit vraiment être conservé au frais, genre du poisson, des crevettes, il y a des petites poches comme ça de glace qu'ils vous invitent à garder dans votre congélateur. Très pratique quand on se fait une entorse. Donc, vous avez des petites poches de glace pour les produits ultra frais. Et le reste arrive par HelloFresh, donc c'est frais. Donc, vous voyez, quand ils peuvent, ils envoient les trucs sans emballage, mais oui, ça fait beaucoup d'emballage. Alors, pour moi, ça fait moins d'emballage que si vous achetez au supermarché. Mais on ne va pas se mentir, ça fait plus d'emballage que si vous achetez au marché. Mais tout le monde ne peut pas acheter ses produits au marché. Voilà. Ouais, les poches de glace, c'est vachement bien. En plus, si vous avez... Bon, enfin, elles sont utiles, ces poches de glace. Alors voilà, je vous montre justement les fiches recettes. Ce que j'aime bien, c'est que les photos sont assez réalistes aussi. Vous allez un peu moins avoir un écart entre ce que vous allez obtenir au final et ce que vous voyez sur la photo. Alors bien sûr, c'est un petit peu enjolivé. Et vous avez, voilà, les étapes en photo, exactement les ingrédients qui vous ont été envoyés, les quantités, et ensuite, comment le cuisiner. C'est un peu mensonger, le moins de 3 euros par semaine pour atteindre ça, il faut 6 repas par semaine par 6 personnes. C'est pas mensonger, mais effectivement, c'est conditionné. Effectivement, 3 euros, c'est généralement plus cher que 3 euros par repas, hein, on va être honnête. Après, ils font beaucoup d'OP promo, faut suivre, quoi. Il y a beaucoup de promos. Si tu joues bien avec ton HelloFresh, tu peux... Alors, c'est plus cher que si tu achetais tes ingrédients toi-même au marché. Après, ça dépend si tu es obligé de prendre ta bagnole pour aller au marché. Enfin, ouais, il y a des calculs complexes. Si tu enlèves le gâchis, moi, je trouve que c'est beaucoup moins cher que le supermarché. Mais ça, je dirais que chaque foyer fait ses propres calculs au niveau du budget bouffe. Pour certains, mettre 7 euros dans un repas, c'est effroyable et je le comprends. Pour d'autres qui mangent des plats surgelés, ils vont plutôt faire une économie, quoi. Je vous montre ensuite les préparations, parce que c'est le truc aussi, hein, ça prend du temps. Je vais pas vous mentir, cuisiner, ça prend du temps. Plus de temps que de mettre un plat congelé dans le micro-ondes. Après, je ne peux que vous dire ça, parce que moi, j'aime cuisiner. Là, on me voit manger, c'est parce que j'aime manger aussi. C'est extrêmement déstressant de cuisiner. Moi, c'est une activité déstressante. C'est mon yoga de cuisiner. Là, je vous montre, c'est des sandwichs qu'on avait fait. Parce qu'ils font aussi des sandwichs, mais avec des ingrédients top class. Donc, il y a aussi des recettes ultra faciles, comme comment préparer un sandwich. Mais, par exemple, c'est à vous de découper la courgette dedans pour faire des lamelles. Donc il y a un minimum pour avoir des produits frais, mais ça reste un sandwich assez facile à faire. Sandwich qui était, et là on n'exagère pas avec Guillaume, ces sandwichs-là étaient excellents. Étaient vraiment excellents. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Voilà, ça c'était un autre plat en pleine cuisson. Pour moi, c'est plutôt le gain de friction mentale. Attention, charge mentale est un mot réservé à certains trucs. Vaut mieux dire friction mentale. Un gain de friction mentale, trouver ce que l'on va manger de la semaine. Oui, voilà. Je comprends les critiques de certains. Il y a des gens extrêmement organisés qui savent faire leur menu sur la semaine, préparer des listes de courses et tout. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, les gens se retrouvent un peu à manger toujours la même chose parce que ils ont du mal à anticiper ce qu'ils vont manger dans la semaine. Et ben, HelloFresh va vous amener déjà ça. C'est de la variété. C'est de la variété dans ce que vous allez manger dans la semaine. Est-ce que le Vision Pro est fourni avec pour les taille mode casserole? Pas encore. Après, est-ce qu'il y aura une appli HelloFresh dans le Vision Pro si ça prend? Ça serait pas con. En vrai, ça serait pas con. Parce que, alors, il faudrait pas que ça soit le Vision Pro V0 qu'on voit aujourd'hui, mais un Vision Pro beaucoup plus léger, moi, je me verrais bien cuisiner avec. Hein. si le truc me permet d'avoir des timers, d'avoir ma recette. Vous avez déjà essayé de cuisiner avec un iPad ? Une fois sur deux, ça se termine avec une grosse giclure de trucs sur votre iPad. C'est pas génial, quoi. Alors que si je peux avoir la recette devant les yeux, ce serait génial. Là, pour le coup, cuisiner en réalité augmentée, je suis 100% pour. HelloFresh, si vous voulez nous payer, on vous... Allô, HelloFresh, oui. Bonjour, ici Nowtech. Oui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On pensait à une OP qui serait vraiment bien. Est-ce que vous voulez pas sponsoriser une vidéo sur le Vision Pro où on parle de l'avenir de la cuisine en réalité augmentée et vous nous achetez le Vision Pro ? Hein ? Oui ? Ah bah oui ! Bah on fait comme ça ! Bon bah ils ont dit non. Le mec qui repose son smartphone en croyant raccrocher. Vous voyez pourquoi je suis mauvais en négociation commerciale, hein. Tu leur as fait peur avec ton personnage chelou. Oui. Allô ? Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur... des questions, parce qu'il va falloir bientôt qu'on arrête. Des questions sur HelloFresh. Alors, je précise, si tout ce que je vous ai raconté, c'est intéressant, et ça vous intéresse de tester HelloFresh, vous avez notre code... Mais en fait, le plus simple, c'est que vous écriviez point d'exclamation HelloFresh. Vous aurez le lien et le code promo pour pouvoir passer directement HelloFresh en soutenant la chaîne. C'est une bonne question, Pierre. Je repose la moi vendredi prochain sur les câbles USB-C. Ouais. Mais la réponse, c'est non. Mais je réexpliquerai. Ta recette préférée de tout temps ? De l'univers. Ouah, c'est hyper compliqué. Hein. C'est très dur de dire mon plat préféré, parce que j'en ai plein. Mon plat préféré de tous les temps. Ce que je voudrais manger si j'étais condamné à mort. Mon dernier repas. J'y pense souvent. Pas... Non, mais souvent, je me fais l'exercice mental. Quel est le dernier plat que j'aimerais manger ? C'est compliqué, parce que ça va dépendre des moments de la journée, de la température, de tout un tas de choses. Parfois, c'est... Tu sais, une bonne tartine de pain avec du beurre fondu dessus et un bon miel, ça me donne des frissons parfois. Après, j'ai mangé des plats dans des restos gastronomiques qui m'ont donné des frissons. C'est ça que je trouve génial avec la gastronomie, c'est que parfois, t'es pas obligé de faire un truc compliqué pour avoir un frisson dans l'échine. Échine de porc, bien sûr. Il y a plein de trucs, quoi. Une pancake à la myrtille bien faite. Ça me met par terre, moi. Mais pareil, dans des restaurants gastronomiques si plats, j'ai goûté des trucs. Le goût était incroyable, des textures incroyables, quoi. Non, le fraisier, c'est pas trop mon gâteau. Aujourd'hui... En fait, par exemple, sur les gâteaux, pour moi, tout se mesure sur l'échelle du Kuniaman. Voilà, Kuniaman, c'est le 10 sur 10. Ah, c'est aujourd'hui mon gâteau préféré all time, imbattable. Pour moi, hein. Donc, tous les gâteaux, je vais les mesurer. Et il n'y en a pas un qui arrive à 10 sur 10 comme le Kuniaman. Ça, c'est clair. Je suis très radical. Alors, attention, ça dépend quel Kuniaman, on est d'accord. Hein. Donc, ton plat préféré, c'est le beurre. J'avoue que je suis assez beurre. J'adore l'huile d'olive. Je viens d'acheter d'ailleurs une huile d'olive. Mamma mia. Une huile d'olive qui tue. Elle m'a coûté cher. La bonne huile d'olive, j'adore ça. Mais j'avoue que j'ai un petit truc sur le beurre. Bon, il est 18h30, tu seras exécuté à 20h12. La température extérieure est de 18,5. Il donne un pot-au-feu. Mais un bon, hein. Ah non, je serais plus... Alors, je suis ni breton ni roman. Mais mon cœur est plus breton que normand. J'aime le beurre salé. J'aime le beurre, mais je l'aime salé. Je suis obligé de freiner un peu sur le beurre salé parce que je ne peux pas manger du beurre salé tout le temps. Parce que trop de sel, c'est quand même pas top pour le cœur. Mais quand je peux et quand je veux du bon beurre, il est toujours salé, oui. Désolé, hein, les Normands. Donc, ah oui, j'ai une boîte HelloFresh à choisir. Il y a deux, trois, il faudrait que je vous en parle peut-être. Il y a deux, trois recettes HelloFresh qui sont vraiment des bangers. Et qu'on refait. Alors, c'est le dernier argument que je donne sur HelloFresh. Même si vous arrêtez HelloFresh pendant une longue période, vous gardez les recettes. Et nous, il y a des recettes HelloFresh qu'on a tellement aimées qu'on achète les produits nous-mêmes. Comme on connaît bien la recette, on sait les quantités d'ingrédients qu'il faut. Et nous, c'est devenu voilà, des recettes qu'on a intégrées dans les recettes qu'on connaît par cœur et qu'on fait quand des amis viennent dîner ou ce genre de trucs, quoi. Je suis d'origine bretonne et j'habite en Bretagne, mais je n'aime pas le beurre salé ni le cidre. Aïe, 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 aïe. Peut-être que tu es une Normande qui s'ignore. Ouais, quoi qu'avec le cidre, tu vas avoir des problèmes aussi. Tu sais, les Parisiens, ils aiment bien le beurre salé aussi. Je suis normand, le seul beurre qui existe, c'est salé. Tu veux dire que le beurre salé du Mont-Saint-Michel est breton ? Là, les Bretons, ils ont déjà fort à faire avec la Loire-Atlantique qui va s'appeler Bretagne. Hein. Donc, ils vont laisser le Mont-Saint-Michel tranquille 5 secondes. Menteur, impossible. Que quoi, les Parisiens aiment le beurre salé ? Aussi. D'ailleurs, puisqu'on est dans les provocations des Bretons, j'en ai une bonne pour les Normands. Vous avez pas un peu le seum ? Je vous explique un truc. Les Royaumes-Unis, on appelle ça la Grande-Bretagne. Alors que c'est les Normands qui ont fait tout le boulot. Et on n'appelle pas ça la Grande Normandie. Ça vous fout pas un peu le seum ? J'adore mes polémiques à deux balles. J'essaye de lancer cette polémique. Pourquoi on appelle ça la Grande-Bretagne et pas la Grande Normandie alors que c'est les Normands qui ont fait tout le boulot ? Hein, Guillaume le Conquérant, c'est pas un Breton que je sache. J'invoque Nota Bene. Mais dire hérésie. Moi, ça me foutrait le seum hein, si j'étais normand. Parce que je pense que vous vous êtes fait avoir. La Normandie a tellement honte d'avoir créé les Anglais qu'elle a laissé ça aux Bretons. Là, je pense que j'ai une polémique un peu à la hauteur du Mont-Saint-Michel. Pourquoi on appelle ça la Grande-Bretagne et pas la Grande-Normandie alors que c'est les Normands qui ont fait tout le boulot ? Moi, je dis ça, mais lancé dans une soirée, jolie petite polémique. Vous invitez des Bretons et des Normands en même temps, vous mettez du beurre doux, du beurre salé... Du cidre brut, du cidre doux. Aïe, 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 aïe. Le cidre doux, mais pourquoi ça existe ? Vous mettez des galettes et des crêpes, que des pièges. Ah, il y a quelque chose à faire. Et Comme c'est un dîner de cons, vous invitez un Parisien. Vous passez une soirée incroyable. Incroyable. Best soirée of all time. Bon, sur ce et ces conneries, il est 10h10, une heure parfaite, parce que c'est 10h10, pour vous quitter. On se retrouve donc jeudi prochain. Je le rappelle, il n'y a pas de mug mardi prochain. Je vous rappelle également pour bénéficier de HelloFresh, point d'exclamation HelloFresh, là tout de suite dans le chat, pour avoir le lien, utilisez le code promo. Préparez vos questions, puisqu'il y en a qui n'ont pas pu poser leurs questions aujourd'hui. On refait les facs vendredi prochain. J'essaierai de moins tenir le crachoir. Là, on a beaucoup parlé du Vision Pro. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Passez un excellent week-end. On va faire, bien sûr, un petit ré-raid. Un petit ré-raid chez... Allez, nos amis de Frandroid. Nos amis de Frandroid, un petit raid chez eux. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien, reposez-vous bien. Et on se retrouve jeudi prochain pour le mug. Ciao tout le monde. Et au revoir aux Bretons et aux Normands. Je vous aime tous. Toutes les régions de France. À part, et là je coupe.